Vous écoutez
RMC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Bonsoir à tous, vous êtes avec nous pour la suite de cette journée de Ligue 1, notamment avec la première victoire de la saison d'Angers il y a quelques instants, 4-2 face à Saint-Etienne. On est avec Sébastien Piociel. Salut Sébastien.
Salut Georges,
bonsoir à tous. Ça y entend jusqu'à minuit Sébastien.
Ouais, minuit avec le changement d'heure, ça va.
Ah oui, exactement, il y a une petite heure en plus pour dormir la nuit prochaine, n'oubliez pas, 2 heures, il faut changer. On file tout de suite à Reims, le stade d'Auguste Delaune face à Brest. Arnaud Valadon, c'est parti depuis quelques minutes et c'est parti très fort dans cette rencontre.
Salut messieurs, l'ouverture du score brestoise sur pénalty, une main décollée d'Okoumou, rien à dire sur une tête de Koulibaly au point de pénalty, le pénalty transformé, contre-pied parfait de la part de Romain Fèvre. Ça fait donc 1-0 pour le stade brestois. Attention les Rémois qui vont essayer de réagir, ils n'ont pas encore eu d'occasion dans cette partie, 7 minutes de jouer, et donc 1-0 pour le stade brestois sur la pelouse de Reims. Attention, le centre d'Ito, c'est renvoyé par la défense brestoise, est-ce que ça va revenir? Ce sera définitivement dégagé par les Brestois.
L'équipe brestoise, hein, tu le disais Arnaud il y a quelques instants, avec 7 changements, hein, c'est ça par rapport au 11 qui a affronté Leverkusen. Seb, t'étais un peu surpris de la compo d'Eric Roy?
Alors, ça marche bien. Pas, je suis pas surpris sur le fait qu'il fasse tourner. Je suis surpris sur le fait qu'il mette quasiment son équipe type, en tout cas celle qui ressemble à une équipe type, en Ligue des Champions et moins en championnat, alors qu'ils sont pas non plus dans une position hyper confortable, même si on est en début de saison. Et alors que par exemple Lille fait plutôt le contraire. Bon, c'est le derby du Nord aussi, mais c'est vrai que dans ce sens-là, et même si elle a quand même de la gueule, cette équipe de
Brest, oui.
Ouais, mais c'est vrai que ça serait une question à poser à Eric pour voir le fait qu'il titularise, on va dire, ses joueurs principaux plutôt en Ligue des Champions plutôt qu'en championnat.
Après, il garde la base, hein, 3 défenseurs sur 4 et le gardien, puisqu'on a juste le latéral droit qu'on a changé.
Ça fait quand même 7 changements.
Mais ils sont juste devant, c'est ce que je voulais te dire.
Arnaud, c'est impressionnant quand on regarde le banc, effectivement. Kenny Lala, le Cardinal, Lesmelou, Magnichi,
Pereira-Lage,
Castillo.
Lala, ouais, tu as dit, Madi Camara. Non, mais il n'y a que les buteurs. Quand je faisais ceux qui ont marqué en Ligue 1, je suis trouvé juste un but pour Ibrahim Salah et un but pour Mama Baldé. Sinon, le reste des buteurs du stade brestois, des joueurs qui ont marqué au total 11 buts cette saison en championnat, ils sont tous sur le banc.
Mais à l'arrivée, Arnaud, on parlait du recrutement de Brest qui a été un petit peu tardif. On disait qu'il y avait pas mal de refus de joueurs de venir à Brest. Finalement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis sur la fin de mercato.
C'est la profondeur, en fait.
Voilà, avec l'effectif, il est plutôt hyper intéressant et cohérent.
La longueur d'effectif, il a presque de 11, parce que, et c'est vrai que la programmation a fait un peu râler. Ils ont joué mercredi contre le Bayer Leverkusen et Eric Roy disait, mais bon, pourquoi nous on joue des samedis, on pourrait jouer dimanche, avoir un jour de plus, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne quand même très vite pour ces Brestois. Mais au final, ils étaient présents au coup d'envoi
aussi,
et ils ont ouvert le score dès la 3e minute de jeu, et donc 1-0 pour les Tisefs.
Les Brestois qui, avec ce potentiel succès, pourraient remonter à la 8e place. Les Rémois, Arnaud, qui venaient de perdre à Auxerre. Alors ils ont retrouvé des titulaires, hein, dans leur 11. C'est la douche froide là quand même pour Lucas Elsner de débuter comme ça, hein, pour cette équipe.
Après, ça, à domicile, c'était quand même plutôt sérieux. C'est à Auxerre, ouais. Ils ont fait presque un non-match. Mené 2-0, ils ont réduit l'écart par Keito Nakamura qui avait marqué son 5e but sur les 5 dernières rencontres. Lui qui marche fort, mais c'est vrai qu'ils étaient privés d'Oumar Diakité, le numéro 9, quasi incontesté, parce que derrière, c'est Amine Salama qui a du mal à convaincre, joueur prêté à Caen, notamment en deuxième partie de saison l'année dernière, et qui a du mal à s'affiner. Ils étaient en panne de créativité. C'est pour ça qu'on a remis le jeune Yaya Fofana, que vous avez peut-être vu très bon contre Marseille. Notamment.
Priori, ah, Georges,
je
l'adore.
Ah oui, mais c'est bon, je suis très bien. Je suis pareil, moi, pour
ça. Et ben, il est là. Il est en position de milieu offensif. Il a pris un petit choc à la tête il y a un instant, mais ça va pour Yaya Fofana. Donc, on remet un petit peu de la créativité parce qu'on manquait vraiment d'idées du côté de l'Abbé Deschamps et Auxerre. Et on a envie, voilà, à domicile, de confirmer ce bon début de saison. Il n'y a eu qu'une seule défaite. C'était lors de la première journée contre Lille où il y avait eu ce carton rouge sur André Gomes avec ce choc très violent à la tête. Le jeune Amadou Koné qui avait donc pris carton rouge, mais depuis, match nul contre le PSG ici, victoire contre Montpellier, victoire contre Rennes. Ils sont quand même plutôt à l'aise à Delaune, les Rémois, et le public qui a répondu présent.
Mais ils ont déjà été menés, du coup. Je ne parle pas de la première journée, mais pour voir un peu la réaction qu'ils ont à domicile.
Alors, à domicile, contre Montpellier, non. Contre Rennes, je ne crois pas. Je vais vérifier. Je vais donner la réponse dans un instant. Hein, t'inquiète pas. Mais non, dans cette situation d'être menés, les Rémois ont plutôt effectivement l'habitude d'être assez conquérant à domicile. Contre le PSG, il menait, hein, puisque c'est Ousmane Dembélé qui avait égalisé en deuxième mi-temps. Donc non, c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois avec cette défaite contre Lille où se retrouve mené à domicile. Mais après, c'est plus le côté, le pénalty dès la troisième minute,
ouais, ça qui te
refroidit un petit peu. Surtout que tout le monde était chauffé à blanc, 17 000 spectateurs, la mascotte Auguste Le Lion qui est descendue des tribunes parce que on a voulu faire un peu d'animation. Il y a le club a mis une politique assez intéressante de palier en fonction du nombre de places qui étaient vendues. À 20 000, tout le stade était réinvité pour un prochain match. On n'a pas atteint 20 000, à 19 000, il y avait une voiture à gagner au tirage au sort. Finalement, on s'est arrêté à 17 000 avec des messages qui sont diffusés sur les écrans géants. Et puis voilà, quelques animations. Donc on essaie d'inciter un peu des... C'est vrai que le public rémois peut être un peu frileux. Bon, quand ça gagne, on a tendance à venir. C'est pour ça qu'on a pu remplir les 17 000 places à Delaune sur ce stade de 21 000.
Bah, tu sais, Arnaud, il est chez lui en plus, hein, à Delaune. Il a le double des clés depuis très très longtemps. On se souvient quand il était là, notre correspondant sur place, Arnaud. Donc 1-0 pour les Brestois, donc avec ce pénalty en tout début de rencontre. Donc face à Reims, il y a un petit temps mort, on va en profiter pour rappeler que Angers, il y a quelques instants, a remporté sa première victoire de la saison, 4-2 face à Saint-Etienne. Première victoire de la saison pour Angers. Il remonte un petit peu la pente, il remonte à la 14e place.
Ouais, comme quoi c'est serré, mais ils ne sont pas passés loin le week-end dernier à Toulouse. Ils ont mené longtemps dans cette partie, ils se sont fait rejoindre. Et c'est vrai que sur ce match-là, face à Saint-Etienne aussi, voilà, qui est en difficulté dans ce début de saison, ça n'a pas été un match simple, mais franchement, les Stéphanois leur ont rendu beaucoup de services, notamment défensivement.
Ah, oui.
Et ils étaient à deux partout, mais entre le pénalty encaissé, où t'as forcément une faute à éviter, et puis sur ce dernier but de Bamba Dieng, où là c'est complètement cadeau. Donc voilà,
c'était la fin du match, c'était
compliqué pour Saint-Etienne. Ouais.
Abdelli Aoulounian, Dieng pour les buteurs Angevin, David Tachfili doublé. Il avait eu un premier but sur un pénalty, il a réussi à le retirer, à le mettre, mais ça n'a pas suffi pour les Stéphanois. Bah, du coup, qui passent derrière Angers au classement, ils sont 15e juste devant la zone rouge en attendant le match de Toulouse. Je vous rappelle que Rennes hier s'est imposé face au Havre 1-0. Tout à l'heure, on présentera la grande soirée, le derby du Nord avec Lens et Lille. On va parler dans quelques instants de OM Paris Saint-Germain, évidemment la grande rencontre demain au Vélodrome. Mais d'abord, on va juste avoir une petite information. Tu sais qu'on va aller à Bernabéu dans quelques instants. Tu veux le 11 du Real Madrid?
Ah, je veux bien.
Allez, ben je te le donne. Tu sais qui est titulaire? Tu le connais, un certain Kylian Mbappé, effectivement, qui va vivre son premier classico titulaire avec Vinicius, Bellingham. Et là, on aura Tchouaméni et Kamavinga également, qui seront titulaires au milieu de terrain. Il y avait un doute entre Modric et Kamavinga. Finalement, c'est Kamavinga qui a été choisi. Lunin dans les cages, je vous rappelle, parce que Courtois est forfait. Rodrigo aussi est forfait, hein, souvenez-vous. Donc la défense, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger et Ferland Mendy également, qui sera présent. Et le Barça, on va voir ça dans quelques instants. Et on ira de toute façon avec Edgar Grollo qui sera sur place. Nous, on se retrouve dans quelques instants dans l'Intégral Foot pour la suite de ce Reims-Brest. Et on va retrouver aussi Arthur Perrault pour avoir toutes les dernières informations du Paris Saint-Germain avant OM-PSG demain. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Georges Quirineau.
On est de retour dans cette soirée de Liga. Reims-Brest, Arnaud Valadon.
Baldé sur un contre éclair alors que c'était un coup franc pour les Rémois, bien placé avec Julien Ito près de la surface de réparation, et le contre en folie avec Mbemba Baldé qui est arrivé pleinax, qui a été servi par un coéquipier qui est allé tromper Yevan Diouf en mettant le ballon visiblement un petit pont hein, sous les jambes de Yevan Diouf qui n'a simplement qu'effleuré le ballon, qui a quand même terminé au fond des filets. Et bien voilà, après 18 minutes de jeu, Brest qui était sur 3 défaites à l'extérieur cette saison en 3 matchs, et bien se retrouve devant 2-0 et a déjà fait le break après 18 minutes de jeu, après le pénalty de Romain Febvre. C'est Mama Baldé en contre, 2-0 pour le Stade Brestois.
Le sang-froid de Mama Baldé là sur cette contre-attaque éclair, Seb, impressionnant hein.
Ouais, en trois passes techniquement c'est très bien joué, et puis après la puissance de Baldé, c'est surtout sur la fin, il a un petit peu de réussite, mais il arrive à passer le corps devant, et puis je crois que le ballon il passe entre les jambes.
Oui.
De Diouf, mais voilà, c'est bah encore une fois, on parlait de coaching. Baldé, on sait que c'est une bonne recrue, mais il a un peu moins de temps de jeu, on va dire, dans les gros matchs, ce qu'on va appeler des gros matchs. Et voilà, c'est un joueur qui en tout cas amène toute son expérience et surtout sa puissance hein, devant.
Il a sorti de balle, hein. Ouais. Il en parlait, Seb Georges. C'est Salah qui est dos au but près de la ligne médiane après un dégagement de Romain Fèvre. Il est dos au but. Fèvre arrive dans l'axe et Fèvre donne tout de suite pour Mamman Baldé. C'est ça les trois passes en fait des Brestois et aussi les Rémois voilà, sur coup de pied arrêté. On sait qu'il faut trouver le bon équilibre entre amener les grands, les défenseurs, les plus grands pour essayer de jouer de la tête et pas trop se découvrir. Et là, Mamman Baldé, il a pris de vitesse tout le monde. Voilà, c'est un petit peu là, découvert.
C'est même pas une question de joueur de tête, c'est une question de placement et puis un peu de détermination, même si on sait que Baldé va très vite. Mais justement, ça, on doit le savoir. Et je pense qu'il y a peut-être même une petite faute tactique à faire au départ de l'action, mais c'est très très bien joué hein, de la part des deux joueurs au départ de l'action du côté de Brest.
Eh bien, les amis, on est au début du deuxième match de Ligue 1 de la journée. On est déjà au huitième but de la journée.
Ben, on parle de quoi ? Des défenses, des attaques du coup ?
Ouais, je pense un peu. Je me rappelle quand
on en tout cas, on revoit le ralenti.
Et 2-0 pour Brest.
C'est très très bien joué, même si on peut mieux défendre. En tout cas, offensivement, c'est très très bien joué.
Il y a eu un fait de jeu aussi, Arnaud. Hein, il y a eu un changement côté brestois avec l'entrée d'un des joueurs qui avait été mis au repos. Hein, c'est ça, du côté d'Eric Roy.
Génial, là. Oui, ouais. On a changé le latéral droit puisque Luc Zogbé, le latéral droit ivoirien, est resté au sol, touché hein, sur un contact. Et voilà, après que les soigneurs soient venus, qu'on ait demandé, on a dit non, il ne peut pas reprendre. Donc, Kenny Lala qui a fait sa rentrée il y a 5 minutes. Il faisait partie du turnover d'Eric Roy, on rappelle, hein, 7 changements opérés dans le 11. Aligné à Reims, mais bon, écoute, turnover joyeux pour l'instant. Hein.
Ah, ben là, je suis curieux de parler avec Yoann Guillet qui va nous parler des cotes à la mi-temps tout à l'heure. Celui qui avait parié sur un 2-0 pour Brest après 20 minutes à Delaune. Je pense qu'il a le jackpot, messieurs, dames. On va continuer à parler de cette Ligue 1 avec demain le grand match évidemment entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Arthur Perrault nous a rejoint. Salut Arthur!
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Arthur qui était à Poissy ce matin au campus du Paris Saint-Germain pour la conférence de presse de Luis Enrique. Bon, on est à 24 heures du déplacement à Marseille. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi l'énergie parisienne?
Un coach détendu en tout cas ce matin à Poissy. Et c'est vrai qu'on a peu cette habitude qu'il soit bavard, qu'il échange sur ses idées avant cette rencontre. Ça a été le cas, même si les dynamiques entre les deux équipes sont totalement différentes. On le rappelle, le Paris Saint-Germain qui reste sur un match nul, un but partout face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions, juste avant une victoire 4-2 face à Strasbourg. Et de l'autre côté, un Olympique de Marseille qui lui vient de s'imposer 5-0 contre Montpellier, certes sans coupe d'Europe, mais avec le plein de confiance. Alors forcément, on se demande si ce classique ne sera pas peut-être le plus équilibré de l'histoire. Mmh. En tout cas, pour l'instant, l'entraîneur Luis Enrique reste prudent.
Este tipo de partidos por experiencia.
Je sais par expérience que sur ce type de match, tout ce que tu as fait avant a peu d'importance. Parce que c'est une rencontre sous haute tension, avec une rivalité incroyable. Chacun a son opinion, mais après avoir analysé notre match, je suis très satisfait. Et aussi après avoir vu la conférence de presse de l'entraîneur du PSV, qui dit qu'ils auraient mérité de perdre, cela veut dire que l'on a fait un très bon match. Nous allons encore nous améliorer, je suis quelqu'un de très optimiste.
Optimiste à Luis Enrique à 24 heures de ce choc face à l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle, Paris est premier avec 20 points, Marseille troisième avec 17 points. Choc équilibré, t'es d'accord avec Luis Enrique, Seb?
Oui, par rapport peut-être même aux dynamiques, mais c'est vrai que le PSG est favori de toute façon, quoi qu'il arrive sur ce type de rencontre. Maintenant, l'OM montre de très bonnes choses depuis le début de la saison, même s'il y a eu deux matchs un petit peu moins intéressants, mais c'est surtout la dynamique, et puis c'est surtout de se retrouver au Vélodrome. Ils sont à 3 points, mais là où je rejoins Luis Enrique, c'est que c'est un match vraiment à part et que on peut prédire tout ce qu'on veut. En fonction du film du match, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Marseille, elle a quand même des armes, et qu'aujourd'hui, donc ce Paris Saint-Germain-là, même s'il méritait de gagner contre le PSV, il me semble un petit peu plus en dedans.
On a un œil sur Reims-Brest. Brest mène 2-0 après 23 minutes de jeu dans cette 9e journée de Ligue 1. On va y retrouver Arnaud Valadon dans quelques instants à Delaune. Nous, on parle de OM Paris Saint-Germain. 20h45 demain avec Arthur Perrault. Arthur, Luis Enrique, Il va être sur le banc demain au Vélodrome en tant que meilleur entraîneur d'Europe, c'est ça? Enfin, c'est pas ce qu'a dit Roberto De Zerbi.
Même du monde, si on en croit rien que ça. Si on en croit Roberto De Zerbi hier en conférence de presse de avant cette rencontre, qui évidemment a multiplié les éloges envers son homologue, parce que ce sera évidemment l'autre duel de cette affiche, le duel de coach, alors au style totalement différent. Et Florent Germain, notre correspondant, en parlait déjà hier. D'abord en termes de communication, on a d'un côté un Luis Enrique qui est très fermé, de l'autre un Roberto De Zerbi qui n'a pas peur de d'expliquer ses choix tactiques, notamment au micro d'un certain diffuseur. Mais voilà, rien que ça, pour Roberto De Zerbi, le meilleur entraîneur du monde, lorsqu'il parle de Luis Enrique, alors forcément, eh bien, le coach espagnol a voulu lui répondre ce matin à Poissy.
Je me sens mis en valeur par les professionnels du football. Les clubs en général accordent la valeur à mon travail. Et pour moi, De Zerbi est un entraîneur passionnant que j'ai suivi lorsqu'il était à Brighton, avec sa manière de vouloir dominer les matchs de la première minute jusqu'à la fin. Quels que soient les joueurs, il finit par les convaincre de jouer comme il le souhaite. Je me suis beaucoup amusé en voyant son équipe de Brighton jouer et j'espère qu'avec sa nouvelle équipe demain, je ne m'amuserai pas autant.
Il s'envoie des fleurs.
Ouais, ça a des chances de louange. Hein. Voilà, avant un match, effectivement, même si là, c'est vrai, Seb, quand même, cette confrontation-là entre Luis Enrique et Roberto De Zerbi, ça donne encore un truc en plus quand même à cette confrontation entre Marseille et Paris. Hein.
Complètement. Et puis, il y a tellement d'entraîneurs, je trouve, neutres. Que là, ouais. On peut apprécier aussi le fait qu'il y ait des entraîneurs, voilà, qui marquent de leur empreinte leur équipe, où quasiment on sait reconnaître l'équipe de tel ou tel coach, et ça fait partie de ces deux entraîneurs-là. Et voilà, ils ont deux styles complètement différents, avec des armes différentes. Mais comme je le disais, l'arme que n'a plus le Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. On en parle beaucoup là de ce fameux avant-centre qui manquait, celui qui marquait 40 buts par saison. Ils l'ont plus cette année. Et je pense que peut-être sur la durée, ça pourrait faire défaut au Paris Saint-Germain.
Rapidement, avant de reparler de Marseille, Paris Saint-Germain, Arnaud Valadon, Reims, Brest, les Brestois toujours devant. Hein.
2-0 et la première frappe rémoise après 26 minutes de jouer, elle est signée Yaya Fofana, frappe des 25 mètres mais directement sur Marco Bizot. Je vous rappelle les buteurs, Fèvre à la 3ème sur pénalty pour les Brestois, Baldé à la 18ème, attention sur le centre de Mounetzi, bien dégagé par Brandon Chardonnay. Ça sera un corner à suivre pour les Rémois, il y a un peu de mieux.
On reste avec toi pour le corner.
Il y a du mieux chez les Rémois, de la vitesse, on essaie notamment passer par le leader technique de cette formation rouge et blanche, c'est Junya Ito, le japonais, il va aller se charger de ce corner dans un instant.
Il aurait pu rentrer un peu Arnaud, non, sur l'action là de... Non, tu trop pas.
Ah, il aime bien centrer. Ouais. Voilà.
Ah, mais il y avait beaucoup de bleu quand même.
C'est vrai, et Chardonnay a été le plus prompt, même si le ballon est vraiment bien centré dans une zone très difficile pour intervenir, que ce soit pour les défenseurs ou le gardien de but. Junya Ito, ce sera sortant, monsieur Brizard, qui va rappeler deux joueurs, un Rémois, un Brestois, et notamment Joseph Okoumou qui a commis la main tout à l'heure, et Mama Baldé, le corner qui est imminent, la 27e, 2-0 pour le Stade Brestois ici à Reims. Ça a un petit peu refroidi les ardeurs d'Auguste Delon, hein, qui était des tribunes très chaudes au coup d'envoi, et forcément un but dès la 3ème sur ce pénalty de Romain Fèvre. Un petit peu compliqué pour les 17 000 spectateurs pour s'emballer, mais allez, pourquoi pas avec Junya Ito. Ça y est, le corner qui est sortant et mal frappé au premier poteau. Attention à peut-être suivre le compte, parce que les Brestois qui ont marqué ce deuxième but sur compte, mais finalement directement sur Marco Bizot. 2-0 pour Brest après 27 minutes de jouer.
On revient vers toi dans quelques instants. On poursuit avec Arthur Perrault pour parler de Marseille et Paris Saint-Germain. Arthur, on l'a dit, c'est un match spécial, évidemment, on a parlé de la confrontation entre les deux coachs. Il faut être conscient quand même que Luis Enrique et De Zerbi, c'est une confrontation qui va intéresser, je pense, toute l'Europe et tous les passionnés de foot dans le monde. Hein. C'est quand même une belle projection pour la Ligue 1. Mais c'est un match qui, ouais, c'est un match qui veut dire quelque chose quand même toujours pour les Parisiens, hein, même si Marseille ces dernières années a peut-être été un peu en dessous. La motivation, elle est là pour ce match-là.
Oui, ça fait 13 ans que l'OM ne s'est plus imposé au Stade Vélodrome contre le PSG en Ligue 1. Forcément, c'est une série un peu compliquée. Les Marseillais ont à cœur d'y mettre un terme. Mais ce qui est surtout parlant, c'est que il y a cet esprit de revanche d'abord de la saison dernière où les Marseillais s'étaient inclinés au Vélodrome 2-0 alors qu'ils étaient en supériorité numérique à 11-10. Même si la même année ils ont réussi à éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et c'est la dernière information que vient de nous donner notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Record d'affluence en vue. Record, c'était 66 046 spectateurs la saison dernière, aussi pour ce fameux OM-PSG remporté par le Paris Saint-Germain. Alors forcément que ça va faire du bruit, mais attention, Luis Enrique appelle ses hommes à un peu de mesure et de gestion des émotions.
Normalmente los partidos de alta tensión, dijéramos los partidos.
Les matchs à haute tension, c'est presque le plus simple. Tu n'auras pas de manque de motivation. Il faut faire attention à un excès de motivation. J'en tiens compte. Il faut 100% de motivation, mais pas 105. Il ne faut pas être dirigé par les émotions.
Sino de que tu cabeza controle esas emociones. Vital para estos tipos de partidos.
Ouais, ça va être chaud demain avec un stade Vélodrome rempli.
Il y a une position de hors-jeu, in fine, c'est très bizarre, en c'était fait, un corner. Dépend,
ouais. On rappelle qu'il y a 2-0 pour Brest, est-ce que c'est une réduction d'écart de Reims?
Oui, puisqu'en fait, c'est un corner d'Ito qui s'est élevé le plus grand. Je crois que c'est Okumu, fautif sur le but, qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Et visiblement, il y a. Ah non, on signale plutôt une main, j'ai l'impression, de la part de monsieur Brizard. Non, c'est Agbadou, le capitaine. Alors là, le capitaine Agbadou est appelé, c'est une tête suite à un corner.
Il a l'air assez sûr de lui,
fait
monsieur Brizard.
Une parade sur sa ligne. Mais là, un amas de joueurs, on ne sait pas si le ballon est rentré entièrement ou pas. Et Agbadou, monsieur Brizard explique à Agbadou qu'il y a peut-être une action de jeu à un moment, mais bon, on est sur un corner. Non, mais ça serait dans un deuxième temps.
Si la montre n'a pas vibré, ça veut dire que.
Le but n'est pas. Le ballon n'est pas rentré.
Que Bizotte, là, on revoit le ralenti. Donc là, il y a la tête, il y a l'arrêt. A priori, bon, le ballon il est
c'est
dedans.
Bizarre.
Ah bah alors là, est-ce qu'il y a, peut-être un mouvement? Est-ce qu'on s'appuie pas sur la défense? Est-ce qu'il n'y a pas un joueur rémois là qui fait un petit peu obstruction sur
un peu, restoir? Mais c'est pas choquant.
Bah, y a,
c'est
franchement, il y a but. Hein, enfin, pour moi, il y a but.
Ouais, curieux là.
En plus, c'est Okumu, il est.
Ah, si, c'est parce que c'est la tête d'Okumu. Et comme c'est d'un deuxième temps le jeu, Nakamura, lui, est en position de hors-jeu. Si on part au début de la tête d'Agbadou.
Il gênerait, en fait.
L'arbitre dit Nakamura, qui est donc entre le dernier défenseur et le gardien, gênerait Bizotte. Il va aller voir à la VAR. Parce que franchement, c'est pas sûr que Nakamura gêne vraiment Bizotte. Il n'est pas vraiment sur la trajectoire.
Il y en a qui
n'est
pas d'accord, c'est Lucas Elsner. Hein. Il est à l'air complètement fou, ouais. Là.
Et monsieur Brizard va voir. Si effectivement en fait Nakamura est soit dans une situation de hors-jeu passif ou s'il
évident,
est acteur et que là il a une influence sur le jeu, et monsieur Brizard a fait le signe, je vais voir la vidéo.
Déjà il est entre guillemets en
tout
position
cas,
de hors-jeu.
Non mais il est pas du tout. Alors il est devant Marco Bizotte, oui, mais il est un mètre devant.
C'est ça, en fait c'est l'interprétation, est-ce qu'il gêne ou pas, c'est l'interprétation voilà. De l'arbitre.
Ouais, franchement là, c'est
sachant qu'en fait
le ballon n'est pas sur la trajectoire de Nakamura. Hein.
Si vous prenez. Non, il n'est pas sur la trajectoire. Si vous prenez la position d'Agbadou, Nakamura est à gauche et moi je fais ma tête à droite. Donc je vais pas du tout.
J'arrive,
là
pas,
où
j'arrive pas à t'imaginer faire une tête. Et après ouais.
Non mais l'arbitre peut imaginer que Marco Bizotte est un peu gêné par la position de Nakamura et lui masque la position de la tête du Rémois quoi.
Mais la ligne est claire en fait. Bizotte n'est pas du tout gêné par Nakamura qui est sur la droite en fait de Bizotte et le ballon va lui arriver
là,
sur la gauche.
On est vraiment sur l'interprétation.
Et donc Monsieur Brizard est en train de voir les images. Sa première décision c'est pas but avec son assistant qui avait levé le drapeau pour cette position de hors-jeu, la 32e. 2-0 pour Brest. Hein.
Il a un plan Arnaud qui lui est montré là sur les images. L'arbitre, M. Brizard de cette rencontre. Franchement là nous quand on voit la séquence, ouais, effectivement ça passe au-dessus de l'épaule, on a l'impression de Nakamura.
L'angle le plus probant.
Ouais mais là l'image là c'est toujours la même en plus. Donc,
il n'y a pas d'autre plan. On a vu ils ont cherché une autre caméra qui était à l'opposé pour zoomer un peu loin. C'était un peu pixelisé. Voilà, on va pas se le cacher. C'était pas possible de regarder.
Est-ce que c'est suffisant pour te déjuger?
Que c'est long.
Image.
Que c'est long, Arnaud.
Ah oui, c'est long. Hein. En tout cas, c'est sûr, le ballon.
Non, là, à aucun moment, il y a l'épaule. Non, il est loin. Il est loin, Nakamura.
Alors, attention à la décision.
Ah ouais, non, il est loin.
Et but,
t'as raison. Ah,
oui, et but pour le Stade de Reims.
T'as raison, ça.
Réduction de l'écart, donc, avec cette tête. J'en ai oublié l'auteur de la tête. Est-ce que c'est Manuel Agbadou? Je crois Okumu, pardon. Joseph Okumu qui se rattrape du penalty qu'il a concédé tout à l'heure à la deuxième. Donc 2-1. Ça relance finalement cette partie puisqu'on joue depuis 33 minutes. Et donc 2-1 toujours pour Brest qui a l'avantage dans cette partie.
2-1, ouais. Reims qui relève la tête. Ça a été long là, cette décision. Mais ce qu'on a vu.
Elle est logique après.
Ça a l'air assez logique.
De toute façon, il gêne pas Bizotte. Et c'est plutôt logique qu'il soit validé.
Ah, je m'attendais à un bon match entre Reims et Brest. On n'est pas déçu avec 3 buts déjà après la demi-heure de jeu. Champagne ouais. Évidemment.
Ça va réveiller un petit peu le public.
Ça marche à chaque fois. On retourne voir Arthur Perrault qui a patienté autant que tous les supporters et moi qui attendaient le résultat de la VAR.
C'était long. Hein.
Ah oui, c'était long. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités de caméra, Arthur. Et on était en train de parler de cette rencontre. Alors j'avais une dernière question avant toi, avec toi, donc OM Paris Saint-Germain, on rappelle demain pour cette rencontre à suivre sur RMC. est-ce que tu as une idée de la compo de Luis Enrique? Ça, c'est la question à un million à chaque fois.
Oui, surtout avec Luis Enrique. Ça, en revanche, ça n'a pas changé en veille de match. Pas de mise en place pour le coach parisien ce matin au campus PSG de Poissy. La tendance est à ce que derrière, rien ne change. Donnarumma dans la cage, la défense Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, la charnière Marquinhos Pacho. Une interrogation au milieu de terrain. Est-ce que Vitinha sera associé à Neves et Zaïre Emery ou est-ce que ce sera Fabien Ruiz à sa place? Et puis devant, pas de surprise à droite et à gauche, Dembélé, Barcola. Reste la question du numéro 9. Faux numéro 9. Est-ce que ce sera Marco Asensio ou est-ce que ce sera Kanginli comme face au PSV Eindhoven? Visiblement, des dernières infos, des derniers échos de la journée, Luis Enrique n'a toujours pas pris sa décision.
Pas de vrai neuf, voilà. Quoi qu'il arrive.
Ça, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas Ronald Kolo Muani. C'est mal parti, en tout cas.
Voilà.
Oh, avec Luis Enrique. Peut-être qu'au moment où on l'attend le moins, il est capable de sortir quelque chose de son chapeau.
Toujours, toujours.
Merci Arthur Perrault d'avoir été avec nous. Évidemment, on te retrouvera demain tout au long de la journée. Spéciale sur RMC, spéciale OM Paris Saint-Germain. On sera en direct du Vélodrome à partir de 19h. Évidemment, l'after sera sur place avec Gilbert, avec Daniel Riello, avec Florent Gautreau. Et ça commencera même dès le Stephen Brunch à 13h. Il va falloir te réveiller tôt parce qu'il y aura de sacrés invités. Javier Pastore. Oh là là. Et José Anigo qui seront ensemble pour nous faire monter en température sur ce OM Paris Saint-Germain. Dans quelques instants, on retrouve, on a Delaune, Reims-Brest, 2-1 pour les Brestois. On est à la 34e minute de jeu. Il y a du spectacle, il va y en avoir également dans quelques instants au stade Santiago Bernabéu, Noche de Clásico, Real Madrid-Barcelone. On sera avec Edgar Grosso dans quelques instants sur place. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Georges Quirino.
Et on a une sacrée 9e journée de Ligue 1 pour l'instant, avec déjà 9 buts dans cette journée. Je vous rappelle qu'Angers s'est imposé 4-2 face à Saint-Etienne un peu plus tôt dans la journée. Première victoire pour les Angevins. Et Reims-Brest, Arnaud Valadon à Auguste Delon. On est avec Sébastien Piocel en studio. Reims-Brest, ça dépote depuis le début de la rencontre, hein.
2-1 pour les Brestois qui menaient déjà 2-0 après 20 minutes de jeu et réduction de l'écart des Rémois. Et c'est vrai que les Brestois avaient un petit peu disparu de la circulation. Là, on les a vus enfin avoir une tentative avec Romain Fèvre, mais qui a mal contrôlé son ballon en entrant dans la surface de réparation. Parce que c'est vrai que sinon, les joueurs d'Éric Roy, ils ont peut-être un peu trop géré. En même temps, mener 2-0 à l'extérieur après 20 minutes, c'est pas forcément une situation habituelle et forcément simple à gérer. Et là, c'est les Rémois vraiment qui, avec cette réduction de l'écart, sont totalement transfigurés, eux qui étaient totalement apathiques. C'est pour ça qu'ils étaient menés 2-0 de manière pas totalement illogique. Et
ils ont quand même une bonne réaction, Arnaud.
À 2-0
parce que, ouais, parce qu'à 2, oui, voilà, 2-0.
Pas 1-0.
Oui, c'est vrai, mais les deux buts, ont quand même, ils sont assez proches. Et ça aurait pu les plomber. Et j'ai trouvé justement qu'après ce deuxième but-là, ils ont une super réaction. Et ils continuent en plus. Bien sûr qu'après Brest. Va réagir un peu en attaque rapide, mais ils n'ont pas beaucoup le ballon, les joueurs d'Éric Roy.
Parce que c'est vrai que côté Rémois, on rappelle le premier but après 3 minutes de jeu, c'est un pénalty. Une main de Okumu. Attention, peut-être les Brestois avec Mama Baldé. On va suivre ça face à Okumu. Sur le côté droit de la surface, le centre d'Okumu. Et Ibrahim Salah va être un peu court, mais ils vont conserver le ballon. Les Brestois, en rendant les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. 2-1 pour les Brestois. Salah qui va essayer de s'entraîner. Non, il va essayer de trouver avec Fernandez à l'entrée de la surface de réparation. La frappe contrée, ça va venir sur Camori Doumbia qui était dans la surface de réparation. Retour presque à l'envoyeur avec Salah qui cette fois-ci va essayer de lever son ballon. Il va trouver le dos Yaya Fofana et corner à suivre pour les Brestois.
C'est quand même un match rock'n'roll, hein. Franchement, il y a des espaces, il y a de l'envie des deux côtés, le football à la française, comme
mais les joueurs alignés par Éric Roy ont d'autres caractéristiques que ceux qui sont alignés habituellement. Donc, ils jouent aussi différemment, et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus dans des phases de transition et ils mettent beaucoup plus de vitesse quand ils doivent attaquer les Brestois.
Corner pour les Brestois qui mènent 2-1 dans les 5 dernières minutes de la première période. Arnaud Valadon,
la 41e, avec Romain Fèvre qui a marqué le pénalty tout à l'heure, et c'est lui qui va aller faire tirer ce corner de la gauche. Ce sera sortant, puisque c'est avec un pied gauche, évidemment très soyeux. Et Romain Fèvre va botter ce coup de pied de coin, ça va finalement atterrir sur Fernandez, et les Brestois qui vont pas pouvoir se créer d'occasion. On va même devoir se dégager côté Brestois pour éviter la sortie de camp des Rémois, et directement sur Marco Bizot, c'est-à-dire que le ballon a fait pratiquement 80 mètres, et Bizot qui va aller allonger avec un long jeu au pied. Le duel récupéré par Sergio Hakimi de la tête, mais directement en touche. 2-1, ça y est, les Brestois sont un petit peu réveillés. C'est vrai que avec cet avantage au score de 2-0, et tu avais raison, Sébastien, sur le côté contre transition attaque rapide avec des profils comme Mama Baldé notamment, comme Camori Doumbia où ça va très vite devant Ibrahim Salah. Bon, on avait un petit peu trop reculé, peut-être au goût des Gricrois aussi, hein, le bloc on l'avait eu vraiment reculé, laissant les Rémois reprendre confiance notamment avec son leader technique Junior Ito, parce que ça passe essentiellement sur ce côté droit Rémois. 2-1 à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, 2-1 en faveur des Brestois.
On revient te voir dans quelques instants. Dans quelques instants, on sera également à la mi-temps du côté de Madrid au Bernabéu, où le Real reçoit le Barça pour un classico très attendu à 21h. On a quand même l'impression que c'est le retour du grand classico. On en parlera avec Edgar Grollo, notre correspondant sur place. Tiens, j'en profite pour vous donner quelques résultats européens aujourd'hui, avec la victoire de Manchester City 1-0 face à Southampton, but de
Haaland. Très tôt dans le match, il me semble.
Ouais, exactement. Et après, ça a été un peu plus compliqué. Il a été un petit peu maladroit ensuite, Erling Haaland. Ça veut dire que City, donc provisoirement aux commandes avec 23 points. Aston Villa a été tenu en échec un partout face à Bournemouth. 23 points pour City, 21 pour Liverpool, qui joue demain sur la pelouse d'Arsenal à 17h30. On a un sacré week-end de foot, hein, quand même. Un mot également d'Italie pour vous dire que Naples s'est imposé face à Lecce, les Napolitains. Plus que jamais leader de Serie A avec un but de Di Lorenzo. Bologne AC Milan a été reporté en raison des problèmes d'intempéries de ce côté de l'Italie. Tiens, un petit peu de Ligue 2 également pour vous signaler que 3 s'est imposé à Caen alors qu'ils étaient à 10. Le Paris FC s'est imposé de 2-1 face à Grenoble. Pour le Paris FC, on a vu Antoine Arnaud, les futurs actionnaires de la famille Arnaud en tribune. Ils sont plus que jamais leaders.
4 points d'avance
sur Lorient, effectivement. Il se passe un truc, hein, Paris FC, Seb. C'est de plus en plus évident. Il y avait du monde à Charletti pour cette rencontre. Allez, on refile à Delaune. Reims, Brest, les dernières secondes de cette première période. Arnaud Valadon, 2-1, toujours pour les Brestois.
La 44e, attention avec Fofana dans la surface. Et Bizot qui est obligé de s'intervenir au premier poteau, dans un angle certes assez fermé, mais les Rémois, ils rentrent beaucoup trop facilement dans les 30 derniers mètres brestois. On a vu avec cette ouverture de Junior Ito sur le côté droit pour Oumar Diakité, qui était dans une position un petit peu inhabituelle d'ailier droit.
Magnifique, il a trouvé sa prise de balle, hein.
Ouais, et il y a Fofana dans la surface de réparation qui s'est pas posé de questions, qui a frappé fort au premier poteau, et Bizot s'est couché rapidement sur ce premier poteau, mais il a concédé le corner. Attention, c'est sur un corner que les Brestois ont concédé leur seul but pour l'instant, et la réduction de l'écart de 1 pour Brest à 45 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps très animée. Ito qui va le frapper dans un instant de la droite toujours, mais monsieur Brizard qui va parler à Marco Bizot, qui va parler à Nakamura. Souvenez-vous, hein, de ce burémo accordé après arbitrage vidéo, puisque monsieur Brizard jugeait que Nakamura gênait dans un premier temps Marco Bizot. Il est allé voir la vidéo, il a vu que Nakamura n'était pas sur le chemin de cette tête de Joseph Okumu. Un long arbitrage vidéo, et là il prend une nouvelle fois le gardien et l'ailier japonais meilleur buteur Raymond à part pour leur expliquer, parce que c'était peut-être aussi la consigne de Nakamura d'essayer de gêner un peu Marco Bizot, parce que c'est un gardien d'envergure qui évidemment sort, n'hésite pas à sortir sur corner. Attention, ça va partir au premier poteau avec Nakamura. Ouh, la déviation, deuxième, Diakité qui est un petit peu court, ça va revenir sur Mounetsi, le ballon qui est désormais sur le côté gauche pour les Raymond avec Sergio Hakimi, mais qui est bien pressé par Mama Baldé. Il y aura 8 minutes de temps,
ouais,
additionnel.
Il y a eu avec la VAR sur le but
blessure Rémois,
la blessure, le pénalty pour les Brestois en tout début de match.
Perso, ça ne me dérange pas, je suis là jusqu'à minuit. Donc,
une minute de plus ou une minute de moins.
Allez,
attention, Hakimi qui va centrer, ça va être un peu de court pour Diakité, mais attention, le danger est toujours là pour les Brestois, puisqu'Aïdara, il est seul au milieu de quasi 3 Rémois, il est pressé, il est obligé de dégager.
Il pousse les Rémois, hein, en
public. Ça pousse fort avec Junior Ito désormais sur le côté droit, à hauteur de la surface de réparation. Est-ce qu'il va dribbler, il va rentrer intérieur ou pas? Junior Ito, il rentre intérieur, mais il est obligé un petit peu de s'exiler, de s'éloigner du but. On va revenir sur Aurelio Buta, le latéral droit, qui va essayer d'aller face à Aïdara. Le duel épaule contre épaule. Ah, monsieur Brizard qui va siffler.
Ouais. Il a été malin, Aïdara, là, oui, sur le coup.
Il l'a joué pas à l'intox, mais.
Si, ouais.
Non, il le pousse par derrière. Je pensais que c'était plus épaule contre épaule, mais Aïdara est bien devant.
Il a bien passé le corps, Aïdara, pour provoquer la faute.
Et qui a un facteur de jugement des arbitres, c'est par rapport à la ligne d'épaule. Est-ce que le corps est devant ou pas? Et là, pour le coup, Aïdara était quand même un petit cran devant Aurelio Buta, qui a mis la main et a donné donc des raisons à monsieur Brizard de siffler. 2-1 pour le Stade Brestois, encore 6 minutes 45 à jouer dans ce temps additionnel. Et carton jaune pour Bizot pour avoir pris trop de temps.
Oui.
C'est à la 45e. D'habitude, c'est plus les gardiens, tu sais, entre la 80e et la 90e. Là, c'est un petit peu tôt. Il va falloir faire attention Marco Bizot, même si bon...
Il n'est pas habitué à ce qu'il y ait 8 minutes de temps additionnel en première période. C'est un peu surprenant. Il est habitué à être dans les vestiaires à ce moment-là.
Pourtant, il fait bon à Reims. Hein.
Oh, Eric Roy, il adore ce carton jaune. Hein. C'est ironique, oui. Évidemment. Oh,
ouais, puis attends, il est souvent expulsé aussi.
Et là, monsieur Brendan Chardonnay qui vient de discuter avec monsieur Brizard, c'est le capitaine, pour dire faut qu'il arrête de prendre autant son temps parce que je vais peut-être lui mettre le deuxième jaune, ce qui serait quand même assez cocasse. Voilà. Le dégagement de Marco Bizot est effectué. Et encore 6 minutes à jouer dans ce temps additionnel de 1 pour les Bressois. On est toujours en première mi-temps. Ballon pour les Bressois avec Kenny Lala sur le côté droit. Il y a l'appel de Romain Fèvre et finalement obligé de se retourner parce que les Rémois quadrillent plutôt bien le terrain, notamment au milieu. Mais finalement, on va s'en sortir avec notamment Camori Doumbia, révélé à Reims notamment, qui va récupérer le ballon, servi par Fernandez. Il va orienter le jeu sur le côté gauche avec la montée d'Aïdara, entrée de la surface de réparation, qui va rouler le deuxième. La tête de Baldé, non. Ce sera avec Antogana qui est premier. La reprise tentée par Eddy Milson, Fernandez, capté par Yevan Diouf, qui est pas loin de faire sa première intervention, hein, puisqu'il a dû subir 2 tirs cadrés, 2 buts pour l'instant. Yevan Diouf est là, plutôt rassurant.
Il y avait quand même quasiment 6 Brestois, hein, dans la surface au moment du centre.
Donc, ah oui, il y avait
quoi,
du
coup. Se projette, hein. Comme quoi, même en menant 2-1 et qu'on on est dans les arrêts de jeu, ils vont quand même de l'avant, ils accompagnent.
On est sur deux équipes très ambitieuses, effectivement, les Rémois et les joueurs de Brest.
Pour le dégagement raté de Bizot, ça va être récupéré par Ito. Il n'y aura pas non plus de danger immédiat pour les Brestois, même si Ito va essayer de déborder sur le côté droit. Il va essayer de centrer sans le contrer directement sur Bizot, alors que Diakité avait essayé de couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau, juste devant le gardien brestois Marco Bizot, qui se fait pas mal huer par le COP. Il va pas non plus prendre tout son temps, puisqu'il a pris ce carton jaune.
Il va faire attention. Il est prévenu. Vous êtes prévenu également, supporters lensois et lillois, que nous serons tout à l'heure, dans quelques minutes, avec Jérôme Sillon et Jean Baumel en direct de Bollard pour vous présenter ce derby du Nord, le 99e du Nord. Ce sera à 21h et vous ne raterez rien ce soir de cette affiche. Là aussi, on aura deux équipes, j'imagine, très ambitieuses pour cette rencontre. Deux équipes ambitieuses également, le Real et le Barça. On sera avec Edgar Grollo à Bernabeu pour le coup d'envoi également à 21h tout à l'heure. Les dernières infos, Kylian Mbappé titulaire, Vinicius également, Bellingham aussi, Lamine Yamal aussi. Il y a des Français, il y a Koundé, il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga, il y a Ferland Mendy. Normalement, il y a tous les ingrédients pour que vous vous régaliez sur RMC ce soir pour suivre ces rencontres. Et en plus, il y aura même quand même les frères Lebrun qui vont s'affronter à 21h en quart de finale. Quel du programme de Montpellier. Quel programme.
Et Seb Piocelle.
Et Seb Piocelle jusqu'à minuit, qui va même du coup suivre avec intérêt les qualifications du Grand Prix du Mexique. Ce sera dans l'after ce soir. Allez, les dernières minutes avec toi Arnaud, à Auguste Delon, 2-1 pour les Brestois. On est au bout du temps additionnel, 8 minutes on le rappelle, hein, dans cette première période.
Oui, encore 4 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Le ballon avec les Brestois qui vont le perdre. Pourtant ils étaient en position offensive près du poteau de corner. Et finalement la touche récupérée par les Rémois qui ont eu un petit peu de mal à se dégager. Oh, Yaya Fofana avec cette sortie de balle magnifique, il va essayer peut-être de trouver Oumar Diakité qui va prendre la profondeur sur le côté droit. Ah ouais, avec le ballon lui colle les pieds, élégance, vitesse, percussion. Yaya Fofana, à peine 20 ans pour lui, vraiment ça peut être la révélation rémoise. Il y a aussi Atangana au milieu de terrain qu'on a un peu plus vu l'année dernière, mais vraiment Yaya Fofana, c'est l'année de son éclosion.
On parlait hors antenne avec Georges de la manière de recruter et de travailler de Reims, et c'est vrai que franchement ils sont dans les datas, mais ils sont pas que là-dedans. Il y a un gros travail qui est fait, et sur ce type de club comme ça, on va dire qui ont de l'argent mais pas à débordement, derrière ça travaille très très bien, et on voit que même avec Esner qui arrive pour être dans ce projet là, ça colle et ça marche.
Mais justement, Seb, on sait qu'ils ont choisi Lucas Esner pour sa capacité à faire évoluer aussi des jeunes joueurs comme ça. Il correspondait à l'ADN rémoise pour prendre la suite de Will Steele, et c'est vrai qu'on voit notamment Yaya Fofana qui a poussé sur le banc Teddy Thomas, alors qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Il y avait incertitude sur Teddy Thomas. Jeunet Alischio, il est quand même sur le banc, il est dans le groupe, mais c'est vrai que, alors,
Thomas, il a un physique un peu compliqué cette année, Teddy Thomas.
Oui,
il
c'est physique. Attention au deuxième poteau pour les Rémois avec un peu un manque de confiance. Il avait connu Lucas Elsner à l'Union Saint-Gillois, ça s'était pas forcément bien passé, et là on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un problème entre les deux hommes. Alors ils ont un peu mis les points sur les i, dans le sens où en disant non, il n'y a pas de souci entre
moi et le coach. Mais en général, quand il y a une mauvaise expérience avec un coach, c'est jamais évident de le retrouver dans dans un autre contexte.
Mais c'est...
Malgré le, on va dire, le poids que, qu'avait en début de saison Thomas par rapport à sa superbe saison dernière.
Mais physiquement, je crois qu'il était peut-être même suspendu pour le premier match. Et ouais, physiquement, ça, beaucoup ça, de problèmes. Ça. Manque de rythme énormément. Et voilà, il a eu du mal à prendre un petit peu le train. Et surtout, comme l'équipe performait, c'est un petit peu compliqué. Et puis, non, y a, c'est le capitaine aussi, hein, Teddy Thomas, avec le brassard.
Mais le brassard tournant, hein, Reims, parce que là, c'est Emmanuel Agbadou, c'est ça qu'il a.
Ah, Thomas n'est pas sur le terrain.
Ouais, mais Marshall Mounetzi également l'avait eu sur une rencontre. C'est un brassard de la famille, disaient souvent les Rémois. Mais
alors,
c'est vrai
tu sais pourquoi Agbadou va peut-être avoir un peu plus le brassard que Mounetzi. Parce qu'en fait, Emmanuel Agbadou est un joueur qui parle énormément à l'arbitre. Donc, autant qu'il ait le brassard et qu'il soit autorisé. Parce que c'est vrai que les arbitres n'aiment pas quand un joueur qui n'est pas capitaine vienne les voir notamment.
Ah oui, maintenant, on sait que sur ça, les arbitres sont intransigeants. Allez, la dernière minute avec toi, Arnaud, de cette première période à rallonge. C'est déjà aller la 52e minute de cette première période. 2-1 pour Brest face à Reims.
Nakamura qui va donner le ballon avec Hakimi dans la surface. Ça. Sur le côté gauche, le centre à venir. Il a levé son ballon. Attention, peut-être une tête avec Diakité. Ça va être envoyé par Kamori Doumbia. La volée d'Atangana. Oh. Ça va passer à gauche. Un bon mètre à gauche, mais c'était astucieux.
Elle était dure avec le ballon là, qui reculait comme ça. C'était pas.
Première attention comme ça. Là.
Le joueur qui reculait, le ballon qui reculait. L'équilibre est vraiment plus qu'honnête. Alors qu'il y a un Brestois qui reste au sol, visiblement un choc à la tête hein, entre Mounetzi et Diakité. On était monté au duel.
À 2 minutes près.
Pas 2 minutes près. Est-ce que c'est peut-être Koulibaly le défenseur central? Non, Koulibaly est bien là. C'est Aïdara qui reste au sol. Et donc, on va en rajouter peut-être une petite minute de temps additionnel, hein, monsieur Brizard. 45 plus 8 désormais. 2-1 pour le Stade Brestois dans cette première mi-temps face à Reims.
Première période à rallonge, effectivement. On est à la 53e minute désormais. Oui, Aïdara qui est soigné côté Brestois. Donc, ça dure un petit peu. 2-1 pour les Brestois face à Reims.
On demande
le changement là, oui. Effectivement,
ça n'a pas l'air d'aller. Côté Brestois. Là,
et deux latéraux. Ouais. Ouais, ouais. Et en retombant, est-ce que c'est pas un peu l'épaule? Il retombe un peu bizarrement avec la main. Est-ce que voilà, au niveau de la clavicule de l'épaule, qui va rentrer? C'est Jordan. C'est le cardinal. Jordan Amavi. Là, on a vu le cardinal à la télé. Et c'est le cardinal Amavi qui s'échauffe. Ouais. Amavi s'échauffe.
Les deux. Ouais.
Je pense peut-être plus Jordan Amavi hein, sur un poste de latéral gauche. Ça semble quand même un peu plus.
Même si bon, il joue beaucoup moins. Il avait joué pas mal en tout début de saison. C'est moins le cas pour Amavi.
Terrible, en tout cas pour les Brestois, même s'ils mènent au score, oui, ils perdent un deuxième joueur sur blessure.
Ouais, deux latéraux perdus.
Eric Roy avait fait tourner sur ce match-là. On rappelle 7 changements par rapport aux 11 titulaires à Leverkusen. Oui, il y a un petit peu du dépit là, on le voit dans le regard d'Eric Roy, Arnaud. Hein.
Et c'est fou comment passer de vous mener 2-0 à l'extérieur, certes après 20 minutes, mais où tout se passe bien. Et vous vous retrouvez, certes toujours
mais c'est
devant.
Sûr qu'il va sortir
mais
tout, ou pas,
parce que... Alors, on a fait changement, hein, le staff a fait changement, l'épaule gauche visiblement, mais il y a peut-être incompréhension. Alors là, Eric Roy discute avec le délégué.
S'il y a un doute, franchement, il reste une poignée de secondes.
Ouais,
il peut
attendre
la mi-temps.
Eric Roy est en train d'expliquer au quatrième arbitre la démarche à suivre. Est-ce qu'ils vont faire le changement ou pas? Eric
Roy. Alors, à ma vie, n'a pas retiré sa chasume ni le cardinal.
Franchement, Seb. Aucun intérêt de faire un changement.
Oui, non, c'est pour ça.
Ah bah, ça dépend si l'arbitre siffle tout de suite la fin de la mi-temps ou s'il reste encore une petite minute. Voilà, c'est peut-être pour ça. On est désormais à 45 plus 10. Bah,
s'il est sûr à 100% de ne pas pouvoir continuer après, oui, il faut changer.
Alors, Eric Roy demande à son joueur est-ce que ça va avec le pouce et tout.
Ça va ou pas?
Et Aïdara dit ça va, bah, ça va.
Non, mais là, Eric Roy, il a crié dessus. Hein. Ça va ou pas?
Il a raison.
Mais le joueur dit moi ça va.
Ça fait partie
et
de
le staff dit non, changement.
On est à la 55e minute de la première période. Hein, si vous nous écoutez sur RMC.
On va pas faire le mi-temps, on va tout enchaîner. Allez, c'est parti jusqu'à la fin.
Oui, je pense déjà qu'on parle de calendrier surchargé si on commence à faire des matchs sans mi-temps.
Aïdara demande à rentrer, à revenir sur le terrain et il est rentré. Voilà, il est de retour, Aïdara. Donc on verra peut-être s'il y aura changement à la pause. Ah, mais voilà, je croyais que monsieur Brizard qui avait fait signe à Aïdara de rentrer se ravisait. Non, c'est bon, on est revenu à 11 contre 11 et 45 plus 10 minutes et 30 secondes. On va peut-être aller encore 30 secondes supplémentaires pour monsieur Brizard. Il aime bien, il se dit ce match est plaisant. C'est vrai qu'il est plaisant. Hein. On a déjà vu 3 buts.
On est pas loin de s'approcher de
Junior Ito, un petit point magnifique sur Aïdara justement. Junior Ito qui va alerter sur le côté gauche Hakim, mais ça sera directement en touche. On s'est mal compris, mais les applaudissements de Luca Elsner suite à ce très bon mouvement de Junior Ito, magnifique sur le pauvre Aïdara qui s'est pris un coup à l'épaule et là qui vient de se prendre un petit café crème, petit pont, et c'est la mi-temps.
Ah, oui.
C'est Brest qui mène 2-1. Fèvre sur pénalty à la 3e, Baldé à la 18e, réduction de l'écart, signé Joseph Okoumou pour les Rémois, 2-1 donc pour le Stade Brestois. Mais mon petit doigt me dit qu'on risque pas d'en rester là.
Ah, c'est possible, effectivement. On va débriefer cette première période dans quelques instants. On va parler de Lens-Lille à 21h ce soir, tout comme Real Madrid-Barcelone. Restez avec nous sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Georges Quirino.
On est ensemble avec Sébastien Piocel ici en studio. C'est la mi-temps entre Reims et Brest. On a eu une sacrée première période. Pour l'instant, 2-1 pour les hommes d'Éric Roy. Johan Guillet nous a rejoint en studio. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut. L'évolution de Paris dans quelques instants.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Johan, l'évolution des cotes sur cette rencontre indécise.
Tout a changé maintenant. Genre, c'est Brest qui est favori à 1,70. Reims est à 4,40. Le nul est à 2,85. Messieurs, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Ah oui?
Je suis un imbécile. Je vais vous proposer le 2 partout ou le 3-2 pour les Rémois. C'est coté à 2,45.
C'est pas mal ça, effectivement.
Je vais quasiment suivre Yo dans le sens où j'ai trouvé très très bonne la réaction des Rémois après ces deux buts encaissés. Et moi, je les vois bien retourner complètement la situation et gagner 3-2.
C'est coté à 6-5.
Voilà, score exact 3-2.
Ok, ça serait magnifique.
Non, mais c'est acté déjà, tu connais.
Oh là là, il y a de la certitude.
Si c'est Piocel le dit, c'est que c'est vrai.
Allez, merci Yo, à tout à l'heure.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La mi-temps donc à Delaune, 2-1 pour les Brestois face à Reims. Je vous rappelle que Angers s'est imposé pour la première fois de la saison en Ligue 1 avec sa victoire 4-2 face à Saint-Etienne. Et nous, on va aller, Seb, on va aller de l'autre côté des Pyrénées. On va rejoindre un grand chanceux qui normalement est déjà installé au stade Santiago Bernabéu. 21h ce soir, en même temps que Lens-Lille, que vous vivrez avec Jérôme Sillon et Jean Baumel. Il y aura Edgar Grolot au commentaire du classico entre le Real Madrid et le Barça. Salut Edgar.
Salut Georges, salut Seb, salut tout le monde.
Salut Edgar.
Bon, déjà raconte-nous un petit peu, on va en parler dans quelques instants. C'est le retour, on a l'impression, du grand classico. Il y aura du Mbappé titulaire notamment. Tu viens d'arriver à Bernabéu, aux alentours du stade. Dans le stade, ça ressemble à quoi un soir de classico, Edgar?
Alors, il y a eu énormément de monde pour l'arrivée des bus, des joueurs. Celui du Barça a été complètement sifflé, vous l'imaginez bien. Mais il y avait, je pense bien, une dizaine de milliers de supporters autour de ce stade qui attendaient. Vraiment, toutes les rues autour du stade étaient bloquées. Et là, on a un immense tifo qui se prépare, qui va couvrir l'intégralité du stade Santiago Bernabéu. Ça va être assez impressionnant. On vous décrira ça au coup d'envoi. Mais tous les petits panneaux sont prêts à être levés dans les airs par les supporters. On sent, tu le disais, c'est un classico spécial et on sent qu'il y a une ambiance, une tension spéciale autour de ce match. C'est très difficile à prévoir. On a hâte de voir cette équipe du Real, on a hâte de voir cette équipe du Barça. Il y a absolument tous les éléments pour une grande, grande, grande soirée de foot. On va se régaler ce soir.
C'est une certitude, c'est un classico. Tiens, d'ailleurs, il y a un autre classico qui a débuté en Corse, Ajaccio Bastia. On sera dans quelques instants avec Jean-Philippe Tecula pour suivre cette rencontre 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. On est avec Edgar Grolot, Bernabéu, Real Madrid, Barça. J'imagine qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé du côté de Bernabéu, du côté de Madrid, du côté de l'Espagne. Il sera titulaire ce soir, hein.
Il sera titulaire ce soir, mais il sera titulaire aux côtés de Vinicius, qui accapare un petit peu plus d'attention ces derniers jours, puisqu'il a mis un triplé face à Dortmund, puisqu'il va sûrement avoir le Ballon d'Or lundi. La une des médias espagnols, les unes étaient plutôt dédiées à Vinicius, mais c'est surtout dédié à Souche, parce que là il y a vraiment un enjeu sportif pour Kylian Mbappé. Tout le monde ici espère que ce sera peut-être le match, non pas du déclic, mais le match qui va le faire définitivement entrer dans son histoire madridaine, parce qu'on attend tous ce match référence, on attend tous ce choc où il va briller. Il a bien joué face à Dortmund, il a notamment lancé un petit peu la remontada madridaine avec cette passe décisive pour Rudiger. Mais on attend toujours ce match où on se dit ok, c'est pour ça que le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, et c'est sur ce type de match face au Barça qu'on l'attend plus que sur tous les autres matchs. Il peut faire ce qu'il veut, j'ai envie de dire, en Liga sur les autres matchs. S'il n'est pas bon dans le classico, s'il n'est pas bon dans ce genre de rencontre, finalement c'est ça que les gens vont retenir. Donc c'est une soirée très 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 importante pour lui, messieurs, évidemment, ce soir.
Premier classico pour Kylian Mbappé. Tu en as parlé hier avec Carlo Ancelotti en conférence de presse, on l'écoute.
Il sait parfaitement parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a joué
Kylian Mbappé le sait très bien, il a de l'expérience et il a joué plusieurs fois contre le Barça et il sait très bien ce qu'il a à faire. Sa façon de se préparer pour ce match est tranquille et simple, il a confiance en ses qualités. Je crois que demain il va apporter comme toujours à l'équipe, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais il apportera quelque chose à l'équipe demain, j'en suis certain.
À l'équipe.
Et demain, c'est aujourd'hui, dans moins d'une heure, le coup d'envoi du Classico. Kylian Mbappé, Seb, qu'est-ce que tu en attends sur ce Classico? Tu penses que ça peut être le match pour que le Real tombe amoureux définitivement de Mbappé? C'est un match important pour lui?
Oui, forcément, même si je nous trouve tous un peu sévères avec Mbappé.
13 matchs, 8 buts, 2 passes décisives.
Voilà, donc en termes de
statistiquement, il n'y a pas photo.
Voilà, mais ça reste quand même important pour un joueur offensif. Bien sûr qu'on attend encore plus de lui et c'est souvent un joueur qui a répondu présent dans les grands rendez-vous. Donc c'est vrai que il doit s'imaginer, même si c'est quelqu'un qui a pas énormément de pression, il est habitué à ça. Donc, mais forcément, il doit quand même en rêver de bien figurer ce soir et pourquoi pas d'être décisif.
Comme tu me disais tout à l'heure, en plus il a pas joué contre l'Atlético. Hein,
voilà, ouais,
c'est son premier grand match de Liga.
À cause de blessure, il avait pas joué contre l'Atlético, donc c'est vraiment son premier gros rendez-vous. Et puis, comme disait Edgar, il y a aussi l'enjeu sportif collectif, hein, puisque Barça est devant. Non, moi je suis plutôt confiant. Bien sûr que Vinicius aujourd'hui, de par le Ballon d'Or, mais de par tout simplement ses performances, est au premier plan. Mais pour marquer l'histoire du Real, il faudra plus qu'un match, un très bon match face au Barça. Mais en tout cas, ouais, ça peut pas lancer réellement son histoire. Je pense qu'elle est lancée, mais c'est un match déjà important et décisif pour le Real collectivement.
Un Classico qui retrouve de sa splendeur. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis la fin de Cristiano et Messi en 2018, hein, la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, peut-être que ce Classico avait un peu perdu de sa saveur et que c'était plutôt un Liverpool City, peut-être qui avait pris le dessus époque Guardiola, Klopp. Peut-être que ça a repris de sa saveur aussi, Edgar, parce qu'en face, il y a une autre adversité, il y a un Barça qui est de retour, oui. Et puis surtout, il y a un ennemi totalement identifié en termes de joueurs. Avant, il y avait Messi. Aujourd'hui, il y a le jeune Lamine Yamal qui, j'imagine, à Madrid, toi, tu vis à Madrid, accapare toutes les discussions avant ce Classico.
Bien sûr, c'est ce qui manquait, je pense, ces dernières années. Il nous manquait ce joueur qui a ce statut-là. Il a pris une dimension absolument immense en Espagne. Il faut bien se rendre compte que c'est le joueur préféré des Espagnols et c'est même le joueur préféré, j'ai envie de dire, des Madrilènes. Ici, quand la sélection joue, partout en ville, on voit des maillots de Lamine Yamal. Dans les boutiques, on voit les maillots de Lamine Yamal. C'est pas des maillots de Carvajal ou autre.
Je sais pas,
c'est
si Lamine Yamal, la star. Ils avaient des maillots de Raoul, hein, tu vois, pour comparer.
Mais c'est dingue. C'est dingue l'ampleur qu'il est en train de prendre, ce jeune adolescent, parce que c'est encore un adolescent, et c'est ce genre de joueur qui permet aussi à cette rivalité de prendre une nouvelle dimension. Évidemment, il était là l'année dernière, mais il n'avait pas encore cette dimension-là. Et là, comme je disais tout à l'heure, on a tous les éléments.
L'euro est passé par
oui,
là.
Oui, bien sûr.
Forcément, ça a aidé.
Bien sûr. Et il est en train de confirmer en ce début de saison, mais on a tous les éléments parce que collectivement on a deux équipes qui sont au top. Le Barça, on les attendait au niveau face au Bayern et ils ont été au-delà de nos espérances. Le Real a répondu présent face à Dortmund, et quand tu sors de ces deux prestations-là où t'as mis 5 et 4 buts face aux deux meilleurs clubs allemands, tous les éléments sont là pour ce soir. Et en plus de ça, on a des individualités fortes. Il y a du storytelling à tous les niveaux, des oppositions de joueurs. On peut imaginer absolument tous les scénarios ce soir, et c'est ça qui est génial. Et en plus de ça, on a deux équipes qui ont un jeu assez direct, et je pense qu'il va y avoir des espaces, je pense qu'il va y avoir du jeu, je pense qu'il va y avoir des buts. En tout cas, ce serait une surprise de voir un match terne ce soir quand on voit la physionomie des matchs de ces deux équipes depuis le début de saison.
On a envie de voir effectivement aussi la confrontation Ancelotti-Flick. On a parlé de Zerbi, Cédric est pour OMPG. Je pense que celui-là aussi sera particulièrement intéressant. Edgar, reste en place, prépare-toi, monte en température et tu vas nous faire monter les décibels, je suis sûr, ce soir pour cette rencontre à 21h entre le Real et le Barça en direct de Bernabéu. Vous suivrez ça en même temps que Lens-Lille. Il y aura également Stade France et Clermont en rugby, le top 14, et également le Classico des Lebruns. Félix contre Alexis au tournoi de Montpellier, ce sera un quart de finale. On revient dans quelques instants pour la suite de Brest-Reims, les Brestois qui mènent 2-1 à Delaune, et on va également aller en Corse pour le classique entre Ajaccio et Bastia. À tout de suite.
MC Intégral Foot,
Georges Quirino.
avec Sébastien Piocelle. On vit cette 9e journée de Ligue 1. Je vous rappelle que Saint-Etienne s'est incliné sur la pelouse d'Angers 4-2 plutôt dans la journée, la première victoire angevine de la saison. Et on file tout de suite à Delaune pour la reprise entre Reims et Brest. Arnaud Valadon,
2-1 pour le Stade Brestois. Et le changement, Aïdara qui était touché un petit peu à la fin de la première mi-temps est sorti à la mi-temps. Au moins ça grille pas un temps de changement à Eric Roy. Jordan Amavi a donc bien fait son entrée. On a perdu les deux latéraux droits alignés, que ce soit Zogbé en première mi-temps remplacé par Lala, et là à l'instant donc Aïdara remplacé par Amavi. C'est parti Monsieur Brizard qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Les Brestois qui mènent 2-1, ils menaient 2-0 après 18 minutes, mais les Rémois sont vraiment revenus dans cette partie. Ils ont même mieux fini. À voir comment les joueurs d'Éric Roy, après leur match de Ligue des Champions mercredi, vont pouvoir tenir la cadence dans cette deuxième mi-temps où clairement ils risquent de souffrir, les Brestois, parce que les Rémois sont quand même sur une belle dynamique à domicile. Ils ont perdu certes le week-end dernier contre Auxerre en retour de trêve internationale, mais on sent qu'ils sont remuants avec Nakamura qui va aller obtenir cette touche puisque Lala a touché avec le haut du crâne. On va aller s'installer dans le camp brestois déjà pour le Stade de Reims avec Keito Nakamura. Il n'y a pas eu de changement du côté des Rémois de Luca Elsner. Le ballon, cette touche de Nakamura joué derrière par Yaya Fofana, on va repasser avec les centraux. 2-1 pour le Stade Brestois et c'est reparti depuis 45 secondes.
On te retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre, Arnaud. Sébastien Piocelle en studio est comme un fou parce qu'il a un œil également sur un classique, celui-là aussi,
entre
Ajaccio et Bastia. Oui, c'est parti depuis une dizaine de minutes. Jean-Philippe Scapula est sur place. Ah ça, Jean-Philippe, c'est un match particulier aussi encore. Ça, il y a 0-0 au début de cette rencontre.
Ah, c'est un match qui s'inscrit dans la série de grandes affiches européennes du week-end. OM, PSG, Real Barça, Inter, Juve et ACA Bastia. Seb, je suppose qu'il a sursauté
ça
à l'instant.
Ouais, sur la tête de Majotti.
Ouais, on se demande comment il a pu rater ça. Julien Majotti,
surtout lui, en plus, c'est une de ses qualités. Le centre
très
était
adroit.
Parfait,
ouais. Un caviar de Ménadier, hein, Julien Majotti, le Bastia seul à 6-7 mètres du but et qui rate complètement sa tête, qui frappe à côté. C'est la première grosse occasion dans ce derby qui est parti sur un rythme assez timide, hein. Un premier carton jaune au bout d'une minute pour Everson. Une petite stat, hein, sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, 9 cartons rouges distribués. Voilà, ça pose le décor d'un derby corse, mais c'est quand même une belle fête. On espère que la fête sera belle, on espère du spectacle. 12 joueurs corse, et c'est un record là aussi. Ah oui. Sur la feuille de match, 5 du côté d'ACA, 7 du côté de Bastia.
Oh, il tourne dans la surface, oh, ça passe au-dessus, quelle occasion pour le Stade de Reims. C'était parti sur le côté gauche avec Hakim, avec Nakamura, le centre d'Yakite qui est au point de pénalty, qui est un petit peu de haut but. Il a l'intelligence de donner à Juni Aito avec son pied droit. Oh. Il n'a pas voulu enrouler avec son pied gauche.
Il revient en retrait, Arnaud, là. Bon, après, c'est bien joué, c'est l'idée, parce qu'il est un petit peu excentré.
Il y a Mounetzi seul.
Ah ouais, s'il feinte la frappe, il la remet juste en retrait.
Ouais.
La plupart ont retiré, hein, je dis.
C'était juste effectivement. Hein, c'était Reims-Brest, hein, 2-1 pour les Brestois. On se retrouve dans quelques instants, Arnaud. Jean-Philippe Scapula est en train de nous dire que c'était un derby plus corse que jamais. Hein,
ouais,
c'est ça,
en plus, il y a quelques Ajacciens. Je parle notamment de Tramoni qui joue à Bastia.
Ouais, Christopher Ebahi qui a été formé au Sporting, qui est aujourd'hui l'avant-centre de la CA. Un duel pour résumer tout ça. Doumégui, des défenseurs du Sporting, et donc Christopher Ebahi. Ils ont grandi à Bonifacio tous les deux. Ils sont nés à 10 mètres d'intervalle de distance, ah ouais, leur de maison. Et aujourd'hui, c'est le duel, l'attaquant du Sporting, de la CA contre le défenseur du Sporting. Voilà, on espère.
Et sans être corse, Chabert entraînait aussi le Sporting.
Ah ouais, Chabert a fait les deux camps. Ouais, il a intérêt à gagner ce soir pour qu'on lui pardonne du côté de la CA. mais voilà, c'est parti. Voilà, sur un rythme assez tranquille, l'ambiance est bonne, les conditions sont parfaites ici en Corse. On espère un beau derby. On joue depuis 15 minutes ici à Michel Moretti, toujours 0-0.
Voilà, Bastia 10e, je vous rappelle, et Ajaccio 12e au coup d'envoi de ce match. Il y a 3 points d'écart en faveur des Bastiais sur cette rencontre. Si vous entendez Sébastien Piocelle parler avec autant d'amour de la Corse, lui pour les plus jeunes d'entre vous, il a joué pour un des deux clubs corse. Je vous laisse regarder sur
le vrai club en
fait. Oh là 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 là, mais une soirée comme ça, tu redis ce genre de choses. Il a joué à Bastia. Attention, ne le dis pas trop fort, Jean-Philippe, là, toi en tribune. Il ne faut pas que ça se chasse.
Je vais le dire à son pote, Johan Caval.
Voilà, je vais faire un bisou.
Non, mais c'était très intéressant de d'avoir avec toi la particularité, effectivement, de cette rencontre avec beaucoup de Corses. On parle souvent, par exemple, au Pays Basque des confrontations entre Bilbao et la Real Sociedad. On a aussi cette particularité en France avec ces deux clubs corses. On se retrouve dans quelques instants. 0-0 entre Ajaccio et Bastia après 15 minutes de jeu. On retourne à Delaune, Reims, Brest, la 50e minute. Les Brestois toujours devant de Buzyn. Arnaud Baladon.
Oui, mais la dynamique du match, elle est clairement pour les Rémois. Et ça fait d'ailleurs un petit moment, hein, même à 0-2. Ils avaient bien réagi, ils ont égalisé de manière plutôt logique. Et clairement, ce tempo, ils continuent d'appuyer sur l'accélérateur. En même temps, c'est normal. Ils sont chez eux, ils sont menés. Mais vraiment, techniquement, ça joue bien. Et on voit des Brestois.
Ouais, on voit les Brestois essayer de sortir un peu. Mais il y a énormément d'espace entre chaque ligne.
Oui, donc le pressing est un peu pas inutile.
Les trois offensifs, ils sont devant. Il y a une quinzaine de mètres ensuite avec les milieux de terrain. Ce qui fait que finalement, ils arrivent facilement à ressortir, les Rémois.
Sur le côté gauche, Nakamura qui rentre intérieur. Finalement, il va à l'extérieur. Le centre, c'est contré par Kenny Lala. Ce sera un corner à suivre pour les Rémois. Non pas qu'ils sont dans le dur, les Brestois. Ça serait peut-être un petit peu exagéré. Il y avait une position de hors-jeu. Il n'y aura pas de corner. Il y avait une position de hors-jeu à la base de Nakamura. Donc Marco Bizot va pouvoir se dégager. Mais on est peut-être plus proche quand même du 2-2 dans cette partie s'il devait y avoir une évolution du score que d'un éventuel 3-1. Mais attention, les Brestois ont marqué ce 2-0 en contre. Et ça, ils savent parfaitement le faire. Et on sait qu'à Reims, non pas qu'il y a un petit peu de naïveté, mais il y a un peu de jeunesse, elle n'est pas forcément derrière.
Il y aura peut-être quelques changements aussi du côté d'Éric Roy dans le dernier quart d'heure ou les 20 dernières minutes.
Bah écoute, il y a du Lesbelou à l'échauffement, du Hajor, du Madi Camara. Ils sont actuellement à l'échauffement. Il y a un quatrième larron, c'est peut-être Mathias Pereira l'âge. Del Castillo, il est pas. Alors, il a fait le déplacement, il est sur le banc de touche additionnel. C'est-à-dire que il n'a pas fait le groupe de 21. Il est juste à côté. Il est pas apte à rentrer, mais il a quand même fait le déplacement.
C'est bizarre alors qu'on leur demande de récupérer qu'il ait fait le déplacement avec le groupe. Hein, ils sont s'il joue pas.
C'est un petit coup d'avion et c'est pas non plus tu joues pas, donc t'as peut-être aussi envie d'être au contact du groupe. Ça montre aussi un petit côté sain d'être là avec les partenaires, je sais pas.
C'est un match, un rallonge, hein. On a eu presque une heure de jeu en première période et là il y a encore un arrêt de jeu.
Oui, Arnaud, c'est le drapeau de l'arbitre.
Non, c'est pas le drapeau de l'arbitre, il me semble que c'est son dispositif audio qui lui permet de parler avec l'arbitre central ne marchait plus. On lui a changé pour lui mettre RMC dans les oreilles pour que Sébastien Piocel puisse lui donner les meilleurs
107.0 la fréquence à Reims.
Magnifique, le drapeau. Non mais c'est vrai, on a vu Marco Bizot également beaucoup parler avec l'arbitre de la rencontre. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a déjà un carton jaune. 50e minute de jeu passée, les Rémois à l'attaque, Arnaud.
Avec le Sandito, ça sera contré. Est-ce que les Brestois vont pouvoir se dégager? Ils ont le ballon avec Salah. Ito qui met un petit peu la pression, son centre qui a heurté le postérieur d'un Brestois et ça n'a pas pu aller dans la zone de danger. Attention, on va récupérer un coup franc. Oh, la faute d'Ibrahim Salah, l'attaquant. Non, elle est donnée aux Brestois.
Il dit la première.
Ouais.
Et pourtant, on avait l'impression que c'était un gros
tacle. Que la prise
tacle,
de catch était arrivée.
Franchement.
Ça là, il tient aussi le maillot alors que c'est lui qui est proche du ballon en couverture de balle.
Donc on va lui faire
faute. Après, tu sais, c'est généralement des fautes, on veut pas s'embêter. On siffle parce que ça fait pas de scandale, on siffle.
Ouais, enfin, ça aurait été un coup franc dangereux pour les Rémois quand même là. Hein.
Mais on se dit que voilà, tu siffles un coup franc pour la défense, ça se dégage, il n'y a pas forcément de scandale derrière. Non, mais des fois, t'as un peu des coups de sifflet de facilité.
Ouais, mais c'est un utopique, Arnaud, il pense que tout le monde s'aime. Mais tout le monde est d'accord.
On va les faire ressortir tranquillement.
Arnaud, rapidement, le temps, le score, Reims-Brest.
2-1 pour les Brestois, la 53e. Fèvre sur pénalty baldé pour les Brestois, au Koumou pour Reims.
Et on s'intéresse également à la 10e journée de Ligue 2. Jean-Philippe Scapula, Ajaccio, Bastia.
La 20e minute, il y a un gros choc. La 0-0 entre la Serie et Bastia. Un choc, un joueur Bastia est à terre.
On revient dans quelques instants pour la suite de ces rencontres. On va vous présenter également Lens-Lille à 21h avec Jérôme Sillon et Jean Baumel qui sont sur place. Ce soir en même temps que ce soir que Real Barcelone. Vous ne raterez rien sur RMC. A tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Georges Quirino.
La 9e journée de Ligue 1, on la vit ensemble sur RMC. On est avec Sébastien Possel en studio. On suit Reims-Brest à Delaune. On se rapproche de l'heure de jeu. Les Brestois qui mènent toujours au score de 2-1, mais les Rémois qui poussent de plus en plus, Arnaud Baladon.
La 58e, une action chaude dans la surface de réparation avec un duel épaule contre épaule. Aurélio Buta, le latéral droit de Reims, s'effondre dans la surface de réparation brestoise. Monsieur Brizard est catégorique, pas de pénalty et probablement pas de révision vidéo, même si le jeu n'a pas été arrêté depuis. Ce qui a provoqué évidemment la bronca de Delaune. Les Brestois qui mettent un petit peu le pied sur le ballon parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à laisser la possession aux Rémois et aussi de s'exposer, que ce soit par Nakamura à gauche ou Junya Ito à droite. On voit Luka Elsner sur son banc essayer de dire allez à ses joueurs, allez les chercher, allez les presser, parce que c'est vrai que on a de la vitesse devant, on essaie d'évoluer en contre, on a un petit peu plus de mal à la création compte tenu de ces 7 changements. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de création, il gardait le ballon, Sébastien et Georges, Ludovic Ajorc et Pierre Lespelou vont rentrer dans un instant.
Ouais, Sébastien, c'est les changements bien joué, on va dire, d'Eric Roy, tu penses?
Déjà, Lesmelou, on a vu depuis son retour qu'il a, il change complètement la configuration de l'équipe, hein, de par son positionnement, et puis surtout la faculté à faire jouer ses coéquipiers. Et puis, je sais pas si c'est Baldé qui va sortir, si ça va être du poste pour poste, mais là, encore une fois, c'est complètement un autre profil. Il peut faire du bien aussi pour caler un peu le ballon un peu plus loin de son but, faire remonter un peu le
bloc aérien. Équipe.
Voilà, exactement.
Ouais. Alors que Romain Fèvre reste au sol après un choc avec Akbadou qui a laissé un petit peu son coude au niveau du visage de Romain Fèvre. Et ils sont prêts à rentrer, Ludovic Ajorc et Pierre Lesmelou, dans un instant.
On sait déjà qui vont remplacer ou
non? Non, pas encore, j'ai pas des petits papiers. On va le savoir.
Avec Eric Roy, tu sais pas. Ah ouais, mais on pensait que t'étais
bien. Attends, je peux l'appeler.
Je pensais que t'étais bien. Ouais. Avec...
Je pensais qu'il y a de l'autre.
Oui, mais côté race, tu vois.
Avec tout le kiwoki. Ouais, mais il faut faire marcher le.
Ah bah, je vais te le dire, on va faire le changement maintenant.
Ah bah, c'est facile comme ça, moi aussi je peux le faire.
C'est Eddy Milson qui sort au milieu de terrain. Eddy Milson Fernandez, c'est donc Pierre Lesmelou qui va rentrer donc au milieu de terrain, du poste pour poste. Et pour Ludovic Ajorc, c'est Romain Fèvre. C'est Romain Fèvre qui cède sa place. Donc, Pablo Valdé reste là, tout comme Ibrahim Salah, les deux changements brestois. C'est déjà les quatrièmes changements opérés par Eric Roy, puisqu'il a perdu ses deux latéraux.
Il va se centrer un peu, et puis ça laisse quand même vraiment l'arme de la vitesse avec Baldé, qui est le joueur le plus rapide du côté.
Il sera sur le côté droit avec Hakimi, qui est un latéral gauche très offensif côté Reims. Donc il peut y avoir des espaces lors de jeu dans 30 secondes, et donc 2-1 pour Brest sur la pelouse de Reims.
On va te voir dans quelques instants un petit coup d'œil également sur Ajaccio Bastia, le derby corse. On est sur place avec Jean-Philippe Scapula.
La 27e ici à Michel Moretti, toujours 0-0, mais un derby qui s'anime doucement avec des Bastiais qui se sont plutôt installés. Ça va faire plaisir à Seb Biocel, ça, qui se sont plutôt installés dans la moitié de terrain des Ajacciens, qui jouent très bas et qui peinent à ressortir ces ballons. C'est pour l'instant donc le Sporting de Bastia qui maîtrise ce match sans grosse occasion, hormis cette tête de Julien Majou qui après 10 minutes qui aurait peut-être dû même ouvrir le score. 0-0 ici à Michel Moretti, on joue la 27e minute.
Ouais, Seb, d'ailleurs, tu en as joué des derby corse, on en parlait tout à l'heure. On te préparait au derby, tu sentais dans l'environnement que c'était un match important?
C'est un match important, mais peut-être pas aussi important à l'époque que des Bastianis par exemple, ou des Nice Bastia. Il n'y a pas de réelle animosité, en tout cas moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Et puis à l'époque, Ajaccio était beaucoup plus en Ligue 2. Donc, mais j'en ai vécu, je pense, 4. Je pense qu'il y a eu 2 années sur mes 5 ans où Ajaccio était en Ligue 1.
Elle est plus récente, hein, cette rivalité entre l'ACA et le Sporting Club de Bastia. C'est une rivalité des années 2000-2010. La première rivalité, c'était entre le Sporting Club de Bastia et le Gazélec d'Ajaccio. Beaucoup plus historique, beaucoup plus ancienne et plus ancrée dans la société corse. Désormais, c'est plutôt les jeunes générations, hein, qui s'animent autour de cette rivalité. Il y a eu des matchs chauds. Alors, je ne sais pas si Piocel, Seb les jouaient, mais il y a eu des match très très chaud depuis une dizaine d'années entre la CA et le Sporting de Bastia. Pour l'instant,
depuis une dizaine d'années, non, mais j'ai arrêté, que c'était cool.
Non, j'adorais. Ouais, je me rappelle d'un nul à Ajaccio avec Bastia, mais c'était engagé, mais bon, j'ai plus moi de souvenirs vraiment sur les matchs entre Nice et Bastia.
Tu sais ce que tu fais, Jean-Philippe, à la sortie du stade, tu dis Seb Piocel, vous en pensez quoi? Et tu nous dis après, on va voir comment
je vous fais un micro trottoir.
Exactement. Bon, allez, 0-0.
Il y a quelques Bastiais, attention, même si les supporters ont été interdits de déplacement, ils ne sont plus déplacés à Ajaccio depuis 2012 cause des incidents, c'est malheureusement assez récurrent. Mais il y a quand même quelques Bastiais, Seb le sait, ils sont passionnés, les Bastiais, ils sont disséminés dans le stade, on les devine sur la tête du Julien Majot. Et d'ailleurs, on a sorti un frisson parcourir Tim Itoul. Donc, si je fais le micro trottoir, il pourrait avoir des supporters.
Allez, 0-0 entre la CA et Bastia. On s'en rapproche de la demi-heure de jeu. On retrouve dans quelques instants Jean-Philippe Scapula. 2-1 toujours pour Brest face à Reims.
Et j'ai un bon coup franc devant.
Il est bon comment, tu dirais? Bon, comment on classe ça alors qu'on a passé l'heure?
Ça dépend si c'est Sébastien qui le frappe.
40 mètres, ouais. 20 mètres.
30 mètres.
Ça veut dire quoi ça?
Ah, bah, okay. 27-28 mètres.
Excentré.
Légèrement sur le côté droit, mais aligné sur un poteau. Donc c'est quand même assez axial.
L'identité du tireur?
Alors, à déterminer. En tout cas, Yaya Fofana a pris un carton jaune après avoir bousculé.
Parce que là, s'il y a Teddy Thomas, c'est un bon coup franc, mais il n'est pas là.
Non, il y a Jordan Amavi qui est là pour son pied
gauche. Pas mal, pas mal.
Eh oui, c'est pas mal. Tu as Kenny Lala.
Ouais.
C'est pour Brest, ce coup franc. La 63e, 2-1 pour les Brestois. Et ça va un petit peu mieux pour les hommes des Récrois. L'entrée vite de Ludovic Ajor, qu'on a tout de suite vu toucher un ballon dans la surface, avoir cette faculté de garder la balle et de permettre un petit peu du mouvement autour de lui. De Lesmelou aussi. On a vu une occasion, mais totalement dévissée de la part de Jordan Amavi, puisque sa reprise à l'entrée de la surface de réparation est allée en touche de l'autre côté. Donc pourquoi pas Amavi, puisque c'est peut-être plus pour un gaucher. Et se rattraper de son erreur technique sur la frappe, c'est peut-être Jordan Amavi hein, qui semble très concentré pour ce coup franc à 28-29 mètres, légèrement à droite. Le mur rémois formé par 4 joueurs, ça sera pour Kenny Lala, ça sera frappé au bas du mur rémois, mais c'est pas terminé pour les Brestois. On est avec Lesmelou cette fois-ci en position de centre près de la ligne de but. Il n'y a pas de faute dans la surface de réparation, signale Monsieur Brizard. Les Rémois réclamaient quelque chose sur un de leurs défenseurs et finalement Marshall Mounetzi vient tacler ce ballon, ouais, et renvoyer le ballon aux Brestois qui
c'est un bon coup franc sur le papier, mais tu vas...
En tout cas, ce que je peux vous vendre, c'est des Brestois beaucoup meilleurs dans la possession, beaucoup et beaucoup plus maîtres de la situation.
Allez, c'est bon, on l'accepte. Donc on a passé l'heure de jeu de Buzyn pour Brest, toujours face à Reims. On était à Madrid tout à l'heure, Real Barça au Bernabéu, ce sera à 21h. Moi je vais vous parler d'un autre derby, le derby du Nord, qui va débuter dans quelques instants entre Lens et Lille à 21h. Jérôme Tillon et Jean Baumel sont à Bollard. Bonsoir messieurs.
Salut Georges, salut Seb.
Salut Georges, salut Seb. Bonsoir messieurs. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut, les amis, si je vous dis qu'à Bernabéu il y a de l'ambiance, ok, mais qu'à Bollard ce sera quand même autre chose. Vous êtes d'accord avec moi?
Bah,
vous
faites
une petite carte postale.
En plus, c'est un joueur argentin.
Ah oui, ouais. Medina, ouais, mais là, tu parles au cœur.
On va en parler sérieusement, parce que il y a quelque chose justement avec ce joueur argentin.
53e match à guichet fermé d'affilée à Bollard. Jibo, c'est quand même la classe. Il y a 38 000 spectateurs ce soir. Et ce qui est bien,
le stade est trop petit,
c'est qu'il y a des supporters lillois aussi. Et ça fait plaisir de les voir là.
Ah, ils sont 1000. 1000 avoir fait le déplacement en bus, encadré par les forces de l'ordre. Pour l'instant, tout se passe bien. Ils ont craqué un petit peu de fumigène il y a quelques instants. Voilà, ce sera des amendes, mais il n'y a rien de méchant. Et tout se passe bien pour l'instant. Donc c'est ça l'essentiel pour cet avant-match. Alors qu'on a les compos des deux formations et il y a des surprises de part et d'autre.
Ah bah là, tu veux qu'on commence par quoi, Georges? Tu préfères le LOS que tu préfères les 100 et or?
Ah non, bah là, je veux pas choisir parce que sinon nos auditeurs vont se dire mais les Lillois.
On va commencer par l'équipe haute. Allez, on va commencer par l'équipe haute, Jibo.
Allez, avec Brice Samba dans le but, en défense, Danso Kouchanov et Grady, avec piston gauche, devinez qui? Facundo Medina, c'est une première. Prise de risque de Will Steele. Piston droit, Frankowski, avec Andy Diouf, Thomasson, Zarouri, Enzola et Sotoka. Donc Zarouri aussi, surprise, titulaire. Et Fulgini qui va sur le banc, côté lillois. Il y a des petites surprises aussi. Hein.
Mais d'abord, je vous raconte les coulisses. On est en tribune de presse et Jibo est en train de se faire prendre en photo alors qu'il fait la compo avec des supporters. C'est quand même la classe, Jibo.
C'est son derby.
C'est quand même une star.
Ça te prend pas compte. C'est son derby. Bon,
c'est Hervé et Thierry, on peut le dire.
Est-ce qu'il faut qu'on vous voit toute la soirée, mais notamment il faut
Mais moi, pour préparer le derby, j'ai appelé Jibo.
Ah bah oui, bien sûr.
Oh oui, le Brestois.
Ah bah évidemment.
Position de hors-jeu pour Ibrahim Salah. Position de hors-jeu, ce but sera refusé pour Ibrahim Salah. Ça risque d'être limite quand même. Il a bien enroulé ce ballon au côté droit. Yevan Diouf battu. On va attendre voir le ralenti quand même. Parce que franchement, il est peut-être couvert. Ah, il va être hors-jeu
grand-chose. Ouais, il est hors-jeu.
2-1 pour Brest.
Personne se prend en photo avec toi à Delon, Arnaud?
Non.
Ah, ben désolé.
Ça pourrait quand même. Hein.
Ça pourrait.
Il est chez lui là-bas.
Mais en fait, il est transparent, hein. Honnête. Non. Messieurs, vous nous le disiez, ouais, la compo lilloise peut-être, Jérôme.
Ouais, la compo lilloise, et il avait brouillé les pistes hier en conférence de presse, Bruno Genesio. Ouais, je l'aime beaucoup, mon système à 3 défenseurs. Ben, tu parles, il jouera à 4 ce soir derrière. Avec Thomas Meunier arrière droit, Gabriel Gudmundsson arrière gauche, Diakité Alexandro pour la charnière devant Lucas Chevalier évidemment. Le duo à la récupération, André Gomes et Benjamin André. Angel Gomes sera meneur de jeu derrière un trio d'attaque composé d'Edon Zegrova, de Jonathan David et de Sarawi, le néo-international marocain né à Oslo, ancien d'ailleurs joueur de l'équipe de Norvège, qui arrive d'Erenven et qui va donc être titulaire pour espérer dynamiter ce côté. Donc le 4-2 4-2-3-1 de Bruno Genesio face au 3-4-3 de Will Steel.
On a les hommes pour ce derby du Nord. Sébastien, peut-être une info marquante. Oui, Medina qui va jouer piston.
Bah c'est vraiment l'info marquante parce que je pense que c'est aussi un problème de joueur. C'est-à-dire que Kousanov, il est tellement fort depuis début de saison qu'à un moment donné, le retour de Danso, il fallait bien le mettre quelque part. Et c'est vrai que pourquoi pas dans ce couloir gauche. J'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir enchaîner comme ça dans ce couloir-là. Pas sur l'aspect défensif, ni sur le très bon pied qu'a Medina. Mais bon, c'est un joueur d'expérience. Mais c'est vraiment la grosse surprise de ces deux compositions confondues.
Vous allez voir. Et la saison dernière, pour vous dire, j'avais demandé à Danso et Medina la même question chez un confrère. Et ils avaient dit tous les deux que le joueur qui les embêtait le plus dans le championnat, c'était Zegrova. Ah. Et là, on aura une opposition directe entre Medina et Zegrova. Ça peut être très sympa, un beau duel. Et ouais, après, on aura aussi. Ça va être tendu. Il y en a qui va parler espagnol, l'autre qui va parler anglais ou kosovar. On verra. Hein, mais je pense qu'ils vont se comprendre. Mais il y aura aussi un sacré duel, ce sera Samba Chevalier. D'ailleurs, le Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, est présent à Bollard.
Donc ce soir, on aura la même heure, Gégrova contre Medina. On aura aussi du Koundé contre Vinicius. Normalement, à 21h, vous êtes sur RMC pour écouter Real Barça et Lens Lille. Messieurs, on vous retrouve dans quelques instants. Il y a déjà beaucoup de monde à Bollard. On entend le bruit derrière vous, mais nous, tout de suite, on part.
Un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin, si Tom dort point jusqu'à demain.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Daniel Torres, notre réalisateur, il nous met sa petite playlist ch'ti. Il devait absolument passer. C'est un ami du compositeur, Daniel Torres. Plus sérieusement, Yoann Guillet, les codes sur cette rencontre entre Lens et Lille.
Avec le Racing Club de Lens favori à domicile à 2,15, le nul est à 3,35. Lille est à 3,50. Messieurs, justement, je trouve que ça sent le match nul à 3,35. Et si la balance devait pencher, je pense plutôt que ça serait du côté des 100 et or à domicile. Lens qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,15.
Enfin moi je vois plutôt Lens déjà, même s'il y a eu ce match de Lille en milieu de semaine, même si Bruno Genesio avait fait tourner. Je vois bien les deux équipes qui marquent et Lens qui gagne ce derby du Nord.
Lens plus les deux équipes qui marquent, ça nous permet de quadrupler la mise.
C'est
beau ça.
Allons-y.
C'est bon.
On va être millionnaire ce soir. C'est Sébastien Piocel. Merci Johan, à tout à l'heure.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On vous a passé une berceuse ch'ti, mais vous endormez pas. Restez bien avec nous parce que le spectacle continue rapidement. Le temps, le score, le tour des stades. Reims-Brest, c'est de la Ligue 1, Arnaud Baladon.
La 71e, 2-1 pour Brest.
La Ligue 2, Ajaccio, Bastia, Jean-Philippe Scapula.
La 38e, toujours 0-0 entre la Serie Bastia, un derby qui va se poursuivre sous la pluie battante.
Ouh là, effectivement, ça tombe dur sur la Corse. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces rencontres. A tout de suite sur RMC.
C'est Intégral Foot.
Georges Quirino.
Vous avez entendu cette bande-annonce, il ne faut vraiment pas chercher ailleurs parce que tout se passe sur RMC, effectivement, ce week-end, tous ces classiques, tous ces derbies. Il y aura même un derby de ping tout à l'heure avec un quart de finale entre les frères Lebrun à 21h à Montpellier, sur le tournoi de Montpellier. C'est Léna Marjac qui va nous commenter ça. On est avec Sébastien Piocel, nous, pour suivre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ligue 1 d'abord, on va aller à Delaune, retourner voir Arnaud Valadon. Brest mène toujours face à Reims.
2-1 pour les Brestois avec une stat qui fait mal quand même sur cette deuxième mi-temps. On est à un quart d'heure de la fin. Aux quatre tirs cadrés de part et d'autre, ce soit
ça fait mal, ça,
côté rémois ou côté brestois, même si les intentions sont là, elle n'est pas non plus déplaisante. Mais on sent des rémois qui.
Ils ont laissé passer l'orage un peu, Arnaud, non, les Brestois, je trouve.
Totalement, je les trouve un peu plus hermétiques quand même derrière. Ça passe moins facilement côté rémois sur les côtés. On a effectué le premier changement côté champenois avec Mamadou Diakon qui a remplacé Yaya Fofana. Et là, les Brestois, clairement, ils affichent une solidité défensive, même au niveau du
match
du
interrompu bloc. Ajaccio, match interrompu, des incidents.
Oui, Jean-Philippe Scapula, Ajaccio, Bastia.
Des images assez pathétiques, encore une fois. Hein. On se demandait pourquoi les supporters Bastia étaient interdits des déplacements. Mais voilà, parce que les supporters des deux clubs ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il y a malgré tout des incidents en tribune et le match. Monsieur Tual qui a stoppé le match. On a vu des spectateurs hein, rentrer sur la pelouse avec leur enfant pour se mettre à l'abri parce que ça a chauffé dans les tribunes, des tirs de fumigène. Certainement en raison de la présence de supporters à Bastia. Je vous rappelle que les supporters ont été interdits de déplacement. Malgré tout, voilà, par la route, il faut 1h30 pour rejoindre Bastia à Ajaccio. Et on se doute qu'il y a ce soir des supporters disséminés dans le stade. Un mouvement de foule dans la tribune JB Paul qui est en face de la tribune de presse. Et voilà, c'est parti complètement en vrille et c'est des images à nouveau désolantes hein. c'est vraiment écœurant. Ouais. On parlait de la fête du football corse avec 12 joueurs insulaires sur la feuille de match, mais voilà, la fête est à nouveau gâchée, le match est interrompu. On jouait la 42e minute ici à Michel Moret, c'est 0-0 entre l'ACA et le Sporting, mais le spectacle désolant pour l'instant est en tribune.
Et oui, effectivement, on a vu là des fumigènes allumés. Ils ont été récupérés là par les stadiers en tout cas. On voit les joueurs qui savent pas trop quoi faire. Hein. Il y a un attroupement, c'est ça, en face de toi. On voit les stadiers et les joueurs ajacciens également qui s'adressent au public.
C'est les joueurs de la CA qui sont allés essayer de calmer leurs supporters qui sont très 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 excités.
C'est quoi, il y a des échauffourées là ou est-ce qu'on comprend pas très bien.
Ça se poursuit à l'angle de la tribune, au niveau du point de corner. Là où des incidents avaient déjà eu lieu avec des supporters de Bordeaux il y a 2 ans, c'est là-bas que le mouvement de foule a démarré, parce que c'est là-bas que les supporters bastiais qui s'étaient procuré des billets se sont installés. Ça semble se calmer, mais c'est très fragile hein. On voit le service de sécurité du stade Michel Moret qui fait un gros boulot, parce que c'est pas évident. Mais voilà, on voit des enfants, des parents avec des enfants qui sont rentrés sur le terrain derrière les buts se mettre à l'abri.
C'est surtout ça en fait qui est navrant, même si bon, on n'aime pas voir ce genre d'image, mais quand il y a des familles avec les enfants, ouais. ça doit rester normalement une fête. Et puis en plus, il y a pas de véritable enjeu aujourd'hui. Enfin, on est en début de saison, c'est pas un match pour se maintenir.
Clairement parler de bêtise pure et simple. Voilà, c'est de la pure bêtise. Il y a pas d'enjeu, il y a pas de rivalité. Le match se passait dans des très bonnes conditions avec des contacts comme tous les derbies du monde le commandent. Mais il y avait aucune raison pour que ça dérape ce soir. Mais malgré tout, ça a dérapé et je ne sais pas pour l'instant si le match va reprendre. Ouais. Tu vois, qui demande à tout le monde de regagner l'entrée du tunnel. Je ne sais pas s'il va renvoyer les acteurs au vestiaire le temps de calmer les esprits.
Ils ont pas envie de sortir, les joueurs, on a l'impression. Hein, non, Philippe.
Ils savent pas surtout. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'informations.
Il y a un grand flou là, effectivement, sur la pelouse.
Ouais, parce que le service de sécurité semble maîtriser désormais la situation du côté de la tribune JB Paul. C'est à l'opposé du tunnel qui dessert le terrain de Michel Moretti. Mais voilà, M. Tual ne peut pas donner. Enfin, je comprends que M. Tual n'ait pas envie de faire repartir ce match avec toute l'incertitude qui entoure la situation dans la tribune JB Paul, puisqu'il semble qu'il y ait des supporters des deux camps qui se soient affrontés à coups de fumigène. Hein. C'était vraiment pathétique.
On a vu des personnes qui semblaient avoir été exfiltrées hein, là sur un côté
pathétique et dangereux du coup.
Ouais. Ah oui, très dangereux. Ouais, ouais. Ben, au moment où le fumigène a été tiré, il y a eu un mouvement de foule. Et bien encore une fois, c'est la tribune familiale du stade Michel Moret. On n'est pas dans la tribune dans le vire, enfin derrière les buts où il y a les supporters les plus acanites, les plus excités. On est sur la tribune familiale où il y a beaucoup d'enfants. C'est les vacances. Il y a beaucoup de personnes qui sont montées au stade avec en famille, et bien voilà, mais la fête est à nouveau gâchée. Et on ira dire ensuite que c'est la faute de la préfecture qui interdit les déplacements, qu'en France on ne sait pas organiser les déplacements. Mais non, mais on n'organise pas les déplacements parce que les supporters sont des idiots.
Effectivement, là Jean-Baptiste, on va revenir avec toi dans quelques instants. On rappelle, hein, si vous nous rejoignez sur RMC, des incidents à Ajaccio, match suspendu, match interrompu. On était à la fin de la première période, aux alentours de la 42e minute, 0-0 entre l'AGIA et Bastia. Et les supporters bastiques étaient interdits de déplacement. Mais il y a eu des affrontements là en face sur la tribune JB Paul, en face de la tribune de presse, entre supporters ajacciens et Bastia, visiblement, qui avaient quand même réussi à être en tribune. tribune. Il y a eu des jets de fumigène. La partie a été interrompue. On a vu des scènes un petit peu confuses. Certains supporters, si on peut les appeler comme ça, ont été évacués. Et évidemment, Jean-Philippe, on revient vers toi dans quelques instants. Si tu as de plus amples informations, on te laisse aller à la pêche aux infos. Mais là, pour l'instant, oui, les joueurs ne sont plus sur le terrain. En tout cas, ils sont devant le tunnel. Assez terrible. Hein. Encore un week-end marqué par des incidents dans notre foot français. Je vous rappelle, la semaine dernière, les chants homophobes au Parc des Princes. Et il y a eu également des problèmes aux alentours de Montpellier avant Montpellier-Marseille le week-end précédent. Des affrontements entre supporters lyonnais. Il y a eu le coup de poing sur la table de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, cette semaine, avec une réunion jeudi avec des dirigeants de la Ligue et de l'Association nationale des supporters. Mais voilà, ça continue, on s'en sort pas. Et on a encore des problèmes, même si on a vu, hein, Seb, notamment à Bollard, il y a des supporters lillois encadrés pour le derby du Nord face à Lens. On espère que ça va bien se passer, même si on a vu quelques fumigènes allumés sur le début de cette rencontre. On va retrouver nos esprits, retrouver le football surtout. Arnaud Valadon, Reims, Brest qui mène toujours 2-1, c'est la fin pratiquement de cette rencontre.
La 81e, on a eu la première frappe cadrée de cette deuxième mi-temps, les signés Pierre Mélès-Mélou, les Rémois à l'attaque avec Amine Salama qui vient de remplacer Diakité. Attention, Nakamura qui ne peut pas contrôler ce ballon. C'était une frappe contrée d'Amine Salama et c'est arrivé sur Nakamura qui était au point de pénalty. Surpris, il n'a pas pu contrôler ce ballon et se retrouver en très bonne position pour frapper. On a opéré plusieurs changements côté Rémois, mais c'est les Brestois qui laissaient la meilleure impression vraiment sur ces 10 dernières minutes avec les rentrées des titulaires. On rappelle 7 changements opérés par Eric Roy, effectivement, Sébastien, que ça soit Jorge, Lespelou, là, Madi Camara a remplacé il y a quelques instants Mama Baldé. On était franchement pas loin de se dire que Brest pouvait aller chercher ce but du 3-1 qui scellerait quasi l'issue de cette partie, parce qu'à 2-1 tout reste ouvert à la 82e minute ici Auguste Delon à Reims et Lucas Elsner qui a effectué également ces changements avec Noah Sangui, le jeune latéral gauche qui a remplacé Sergio Hakimi. Voilà, on s'est un peu moins amusé sur cette deuxième mi-temps par rapport à la première, mais peut-être qu'on va avoir une petite éclaircie. Diacon sur le côté gauche pour les Rémois, Sangui qui fait l'appel, le latéral gauche qui va centrer, la tête de Brendan Chardonnay qui concède un corner.
Alors reste avec toi Arnaud pour ce corner pour les Rémois qui tentent d'égaliser dans cette rencontre.
Allez, avec un changement à venir avec Magnetti qui va faire ou pas ce changement pour les Brestois.
Tu aurais pu plus arrêter un changement
qui s'est joué au sol.
Alors de l'autre côté,
c'est Jordan Amavi qui est rentré en début de deuxième mi-temps, hein, Jordan Amavi.
Oui, qui a remplacé Haïdara. Et nouveau changement. Alors ça pourrait être le sixième Brestois parce que il est fort probable que Zogbé est sorti sur une commotion. Et donc là on vous autorise un changement supplémentaire, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on serait déjà oui, j'ai 5 joueurs Brestois rentrés. Donc Magnetti qui se prépare à rentrer peut-être pour les 10 dernières minutes. Junior Ito qui va être au corner de la gauche pour les Rémois à la 83e minute, 2-1 pour le Stade Brestois. Tous ses buts inscrits en première mi-temps. Ito, ce sera rentrant avec son pied droit. Marco Bizzot qui se tient à disposition. Seul un Rémois reste en défense, en couverture. Attention, sur un corner, ils ont pris, c'était un coup de pied arrêté, c'était pas totalement en corner, mais ils avaient pris le but du 2-0. Les joueurs de Luca Elsner. Ito s'est frappé au premier poteau. Il y a une tête de Kenny Lala. Ça va aller au deuxième poteau. Est-ce que ça va être récupéré par les Rémois? Ce sera un nouveau corner de l'autre côté pour le Stade de Reims.
Ils vont pousser les Rémois, effectivement, alors qu'il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Arnaud, nouveau corner pour les Rémois.
Junior Ito qui va aller faire 50 mètres pour aller de l'autre côté devant le parquage des Brestois qui ont fait le déplacement. À peu près 500 Brestois. Cette fois-ci, ce sera sortant pour le virevoltant.
En Ligue 1.
Exactement, et ça se passe très bien. Évidemment, pas d'animosité. Avec Junior Ito, attention, la tête de Joseph Okubu qui a failli de mettre un deuxième coup de casque. Et là, il était tout seul. Déjà, c'est lui qui avait marqué le but Rémois sur côte pierre était, alors que Magnetti va rentrer à la place de Jonas Martin pour ce changement brestois. 2-1 pour Brest face à Reims et il reste un peu moins de 6 minutes.
Je vous rappelle que Ajaccio Bastia a été interrompu à cause d'incidents en tribune entre supporters ajaxiens et Bastia. Visiblement, il y avait 0-0. Match interrompu à la 43e, les joueurs sont rentrés dans le vestiaire, c'est le grand flou pour l'instant à Ajaccio. Dans quelques instants, Lens-Lille, Real Madrid-Barcelone, les Lebruns en quart de finale à Montpellier. Il y aura également Stade français Clermont et la fin de ces matchs de Ligue 1 entre Brest et Reims. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot,
Georges Quirino.
On est avec Sébastien Piocel dans quelques instants, le premier classico de Kylian Mbappé, Real Madrid-Barcelone, Edgar Grollo et Bernabéu, coup d'envoi à 21h comme Lens-Lille, le 99e derby du Nord. Le classique corse entre Ajaccio et Bastia est suspendu, il y a des incidents en tribune, il y a eu des affrontements visiblement entre supporters ajacciens et Bastia, alors que les Bastia étaient interdits de stade. Et pour l'heure, on est sur la fin de cette rencontre entre Reims et Bastia. Reims et Bastia.
Reims et
Brest,
pourquoi pas. C'est
vrai, bientôt, c'est à
côté. 2-1 pour Brest face à Reims. Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Là, à l'instant, c'est le jeune Mamadou Tiakon qui a pris un carton jaune pour simulation. Monsieur Brizard avait estimé qu'il s'était jeté dans la surface. Lui disait, je suis juste tombé, mais je ne réclamais pas de pénalty. Que Monsieur Brizard a donné un carton jaune au jeune Rémois. Et on se dirige quand même côté brestois, peut-être vers la première victoire à l'extérieur. Les Rémois ont du mal et Johnny Aito qui glisse. Pourtant, il n'a pas plu. La pelouse est parfaite, mais le ballon est quand même conservé par les Rémois. Le centre de Aurelio Buta directement derrière la barre transversale et la cage de Marco Bizot. On sent que là, les Brestois vont le faire au métier, aller chercher ce premier succès à l'extérieur.
Arnaud, tu bouges pas. Sébastien Piocel est avec nous jusqu'à minuit également. Et dans quelques instants, Simon Dutin prend la main pour la fin de cette rencontre et pour le bon programme de cette soirée.
RMC, l'After Live.